C'est par un jour d'hiver, un 24 décembre, que notre fine équipe se retrouve pour préparer les festivités de Noël. Un feu de cheminée virtuelle s'animait dans la télévision et les chants de Noël battaient leur plein. Ichouchou et Juan au fourneau, mitonnant de bons petits plats, tandis que Ilias et Camille préparent l'apéro, décapsulant et tire-bouchonnant comme des chefs. Soudain, la musique s'interrompt, les lumières vacillent et le feu de cheminée s'éteint, ne laissant que des bûches de la cendre à la télévision. Camille commença. Ça arrive parfois en franche-con, mais elle ne put finir de dire où ça arrivait parfois, puisqu'un grand fracas se fit entendre et un vieux bonhomme sortit de la cheminée. Il avait une grande barbe blanche, des habits rouges et avait un peu d'embonpoint. Il était couvert de cendres et semblait un peu agité. Oh putain! Dieu que c'est étroit ces conneries de cheminée depuis qu'il a les écrans plats, dit-il en toussant. Les quatre amis furent d'abord circonspects face à cette rencontre inattendue, et Juan prit finalement la parole. Pourquoi y a un clodo dans ton salon, Ilias? Ilias jeta d'abord un regard à la table où les bouteilles et les verres étaient posés afin de s'assurer du degré de lucidité du groupe. Après avoir compté le nombre de bouteilles sur ses doigts, ce qui était bon signe, il reporta son attention sur le vieillard. Bienvenue, posez-vous, prenez un verre, mais j'avoue, vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous foutez ici? On va falloir arrêter le pélisol, les enfants, hein. Les bottes, la barbe, les vêtements rouges. On dirait le père Fouras avec un survêt de Manchester United, tenta Ilias. Et le père Noël, petit con, ça te dit quelque chose? S'énerva le vieillard. Ah ouais, tiens, j'étais pas si loin. Hein. Bon, pour le qui on est d'accord, mais pour le pourquoi? J'ai besoin d'aide. L'un de mes reines est malade, et on m'a dit que vous aviez parmi vous le meilleur chroniqueur alimanier de la podcastphère. Oui. Il faut absolument le remettre sur pattes, ou la tournée de cadeaux ne pourra pas avoir lieu.
Oh non.
Tous les regards se tournèrent vers Hicham. Il resta le regard fixe pendant quelques secondes, comme absorbé par ses pensées. Il se remémora toutes ses heures passées sur Nat Geo Wild, tous ses documentaires animaliers, tous ces vétérinaires de l'extrême qu'il admirait tant. Cette fois-ci, c'était son tour. « Ok, faisons-le, » dit-il avec une franche détermination. « Vous pouvez compter sur nous, monsieur Noël. »« Ah, vous pouvez m'appeler Michel, » répliqua ce dernier. « Allez, on décolle, je vous emmène chez moi. » Le père Noël, Michel, sortit alors une grande chaussette rouge de sa poche, la saupoudra de poussière magique, s'en mit un petit peu dans le nez au passage, et la jeta par terre. Celle-ci grossit alors jusqu'à prendre la taille du salon, et toute l'équipe fut alors aspirée dans un tourbillon de flocons. La tempête se calma peu à peu, ils purent rouvrir les yeux. Ils se trouvaient dans une grande pièce toute en bois, les murs étaient remplis d'étagères pleines de boules à neige, et on entendait une petite musique entêtante. On a atterri dans la boutique de souvenirs ? Demanda Juan. Venez, il est par ici, dit Michel, sans porter d'attention à la question. Ils se retrouvèrent alors dans ce qui semblait être l'écurie à Rennes. Le pauvre Rudolf se trouvait là, amorphe, la truffe terne. Vous voyez, sa truffe ne s'allume pas, dit Michel. Ça fait des heures qu'il est comme ça. Pourtant, j'ai tout vérifié. J'ai pris sa température, contrôlé ses sabots, refait le plein. Ça ne change rien, il refuse de décoller. Hicham enfila ses gants de chroniqueur animalier et inspecta la bête. Après plusieurs minutes, il délivra son pronostic. Je crois qu'il est en manque d'esprit de Noël. En manque d'esprit de Noël, s'écria Michel incrédule. Mais c'est un comble. C'est pourtant un reine des reines du Père Noël. Il vit au milieu des lutins où on passe cette musique H24 tous les jours de l'année. Justement, on peut pas changer, ça fait à peine 5 minutes qu'on est là, et j'ai déjà l'impression que je vais devenir fou, répondit Juan en sortant son iPhone pour changer la playlist. En entendant cette musique, le nez de Rudolf se mit soudain à clignoter légèrement sous les yeux ébahis de la fine équipe de Michel. Chacun essaye alors de faire revenir l'esprit de Noël dans la truffe du renne. Ilias offrit à Rudolf son pull rouge et blanc. Le fait que certains de ses congénères soient brodés dessus sembla faire plaisir au renne, dont le nez clignotait d'une lumière encore plus vive. Camille, quant à elle, lui offrit le pot de cancoyote de secours qu'elle gardait toujours dans son sac. « Mais ça n'a rien à voir avec Noël !» s'exclamèrent les autres en la voyant faire. « Non, mais ça fait toujours plaisir !» répliqua la franc-comtoise en tapant allègrement dans le pot avec Rudolf. Comme pour valider ses propos, le nez de ce dernier s'était illuminé d'une vive lumière rouge. Il était maintenant sur pied, la truffe humide, prêt à décoller et à bramer du Maria Carré. Michel remercia alors chaleureusement toute l'équipe. « Ah putain, merci, vous gérez, hein, je vous en dois une, promis !» Pas de quoi Michel, ça nous fait plaisir, on est des fans. Continue comme ça et mets-nous 5 étoiles sur iTunes, conclut Juan. En ressortant un peu de poussière magique, il renvoya la fine équipe, en éclaboussant un peu ses narines au passage, par pure inadvertance. De retour chez eux, les 4 amis se demandèrent s'ils n'avaient pas rêvé, tant cette aventure leur paraissait surréaliste. En remontant dans leur studio, ils eurent toutefois la surprise de découvrir leur atelier entièrement décoré, un magnifique sapin trônant dans la pièce, et de beaux cadeaux à leur nom au pied de celui-ci. Noël était sauvé, et leur cadeau également. Une musique retentit, l'enregistrement pouvait commencer.
Jingle bells, jingle all
Si.
Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Noël de Pardon Maman. J'ai le plaisir de passer ces fêtes avec vous, avec tous mes amis autour de moi. Nous avons Juan.
Bonjour.
Ça va?
Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Hicham.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, écoute, la bonne année de toi.
Ah bah la bonne année, bah, pas
la bonne année de toi. Ça arrivera.
Mais bah joyeux Noël. Elodie.
Hello.
Comment ça va?
Ah bah très bien.
Joyeux Noël. Et Camille.
Bonsoir Ilia, je te souhaite un très joyeux Noël, tu sais,
merci.
Et une très très belle année.
Que le petit enfant tout juste né il y a 2000 ans soit avec toi.
Ah, merci beaucoup, et avec toi aussi, et avec vous tous, chers auditeurs.
Merci, merci.
Ouais, joyeux Noël à tout le monde.
Ben voilà, on a fait une petite surprise parce qu'on avait dit que le 17e serait le dernier de l'année, et non, puisqu'on vient fêter Noël avec vous.
La fin.
On vous a menti.
On espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous allez être gâtés, que vous allez faire beaucoup d'excès dans le plaisir et la joie.
Tout ce qu'on vous souhaite.
Voilà.
Pour la petite histoire, je me permets d'intervenir. Il faut savoir que Ilia, c'est un grand fan de Noël.
Ouais, c'est trop bien.
Et qui me casse les couilles depuis des mois.
Non, depuis juillet.
C'est le mois de juillet.
Ouais. C'est.
Mais vous êtes pas content, regardez, il y a une belle déco.
Depuis juillet, il écoute du Marais Carré en attendant Noël.
On boit du vin chaud.
Fait Paris chouchou.
Oui.
Il porte un pull assorti à son pantalon saumon. Ce n'est pas une blague, je tiens à préciser.
On porte tous des pulls de Noël, on a tous des chapeaux de Noël.
Oui, et on a un studio décoré entièrement Noël.
On vous enverra les photos. Décoré par le Père Noël qu'on a.
Décoré par le Père Noël qu'on a rencontré tout à l'heure.
Très, très, très joli.
Et il est quand même cool, Michel.
Très sympa.
Le cœur sur la main, il t'invite.
Et comme quoi, la cancoyotte, ça remet tout le monde sur pied. Même Rudolf, le renne, et bim.
Oui, c'était la manière de Camille de dire qu'elle n'abordera plus jamais ce sujet pendant la saison 2.
Bah d'ailleurs, effectivement, on en avait parlé très rapidement sur les réseaux, et puis un peu dans le dernier épisode. On va faire une petite fin de saison, là, en cette fin d'année, pour Pardon Maman. On ne s'arrête pas là, mais bien sûr, mais parce que justement, on a beaucoup d'idées qu'on veut mettre sur pied et vous proposer. Qu'on va faire, on va commencer une nouvelle saison début 2018. Mais on va prendre quelques semaines histoire de pouvoir mûrir tout ça, puis pouvoir proposer de nouvelles choses en Pardon Maman. Donc on reprendra certainement mi-janvier, fin janvier, enfin on vous en dira plus sur les réseaux, sur Twitter, Facebook comme d'habitude.
De toute façon vous êtes tous abonnés, donc vous saurez très bien quand un nouvel épisode sortira, n'est-ce pas?
Et puis c'est pas parce qu'on n'enregistre pas qu'on va pas vous envoyer des petits messages, des petites surprises.
On pense à vous.
Voilà. Donc ce n'est qu'un repos de courte durée, mais ce sera pour mieux exploser par la suite.
Absolument.
Et puisque le Père Noël nous a fait des jolis cadeaux, est-ce qu'on ne profiterait pas de cet instant pour les ouvrir?
Oui.
Allez.
Ouais, je dis banco.
Les cadeaux.
Hicham va chercher les cadeaux.
Ah.
Alors.
Ah.
Je me lève.
Il se lève. Narration. Il pousse avec ses poings afin de se décoller de la banquette.
Alors, il a l'étiquette qui ressort de son caleçon.
C'est pas du tout inventé.
C'est un premier cadeau pour Camille.
Merci Père Noël.
Avec un emballage rouge et des petits points blancs.
Je vois que Camille Hicham n'offre des cadeaux qu'à sa copine parce que il a laissé tous les autres cadeaux au pied du sapin.
Ah, je ramène tout.
Bah ouais.
Ok.
Donc Camille ouvre son cadeau et là, stupeur, étranglement.
Il y a un deuxième cadeau dedans. Ah non.
Oh non. Oh non.
Quoi?
Oh l'enfer. Merci, je reçois des cadeaux également.
Putain, je crois savoir ce que c'est d'ici.
Camille, elle a un
ne
petit...
me dis pas.
Il serait temps, ouais.
Elle a un petit sachet.
Ne serait-ce pas un drapeau?
Ce serait un drapeau?
Ne serait-ce pas un drapeau géant de la Franche-Comté?
Pourquoi tu
on
fais
va
ça?
Pour pouvoir le mettre à la maison.
Parce que je t'aime pas.
Ah, c'est toi, enculé.
Donc Camille a reçu un drapeau de genre 8 mètres sur 12 de la Franche-Comté.
Il est trop beau avec le gros lion.
Ouais, bah ça se mariera parfaitement avec le drapeau de l'Arabie Saoudite qu'on a dans le chaland.
Oui.
Elle est heureuse comme un petit
Merci,
enfant à Noël.
Merci Père Noël. Je vais pouvoir le mettre en guise de cape.
Ah, formidable.
Elias.
Ah bah alors j'ai ouvert le mauvais cadeau apparemment parce que j'en ai reçu deux.
Ah, il y a un ordre et tout.
Les cadeaux.
On fait une séance apéro du capitaine. Qui a des chocobons?
Ah, trop bien. Et c'est le bouquin de Jérémy Ferrari et Happy Hour à Mossoul.
Oui,
ça, ça déchire parce que j'étais grave curieux de le lire. Donc je suis très content.
Tu me le prêteras du coup.
Avec plaisir.
Ah, t'es ce genre de mec.
Non, c'est Camille qui a acheté.
Et avec ça, une petite lecture complémentaire. Le dernier numéro de Voici.
Oui, parce que important. Le Père Noël a entendu que un jour tu m'as reproché de ne pas t'offrir de magazine.
Ah.
Et donc je pense que le Père Noël a dû dire je vais offrir des magazines. Et à Elias.
Je te remercie.
Pour mettre dans ses WC, car Elias a beaucoup de magazines dans ses WC, on se croit dans une salle d'attente d'ophtalmo.
Absolument, ils sont tous périmés d'ailleurs.
Mais c'est, voilà, c'est bien pour ça qu'il
les
fallait renouveler.
Magazines de société d'il y a
donc,
deux ans.
Voilà. Merci, merci Père Noël.
Et puis un ophtalmo qui a des clients qui font que de l'escalade et qui lisent que Society. Mais, mais c'est gentil, alors, si vous voulez tout savoir, d'après Voici, hein, Benoît Magimel, il reprend du poil de la bête.
Ah, c'est un très content.
Nous voilà rassurés.
Et c'est un beau jeu de mots parce qu'il est en train de faire genre du espèce d'overboard avec son chien. Donc voilà. Beau jeu de mots.
Oui, mais ça c'est Voici ça. Ils sont tous dans le fin jeu de mots. Ils sont très très bons.
Et ben j'essaierai de vous faire une rubrique grâce à ce magnifique magazine d'ailleurs.
Oula.
On en sera ravi.
Je me demande où le Père Noël a trouvé un drapeau de la Franche-Comté à Paris.
Merci Papa Noël.
On va lui demander. Hein.
Il est fort.
Attends Juan.
Ensuite. Le ils sont à côté de moi. Je les avais même pas vus. Ah j'ai deux cadeaux. Il y a un ordre ou pas?
Non.
Toi, t'as pas
même thème.
Alors je commence par celui qui est bien emballé.
Oui, je ne sais pas emballer les cadeaux, désolé.
Ah, ça, c'est pas le Père Noël qui les emballe.
C'est pas le Père Noël qui emballe.
Si, mais j'ai fait une mission d'intérim en fait.
C'est Michel.
Ah,
je vous rappelle que le Père Noël s'appelle Michel.
Avec Manpower, ils font ça souvent. Un bracelet de survie.
Oui.
Waouh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bracelet de survie, c'est un petit bracelet tout à fait joli qui est fait d'une corde, d'une paracorde. Qui, en étant dénoué, peut servir à se sortir de situations délicates, par exemple, faire une remontée à la corde au dernier moment, ou ce genre de bail. Merci Père Noël.
Intéressant. Et
il te dit de rien, je crois.
C'est absolument formidable.
Merci.
Et du coup, j'ai un deuxième cadeau, ce qui est complètement inattendu. Donc je vais l'ouvrir.
Stupeur, surtout.
Avec une impatience impatiente.
Et le Père Noël te remercie d'avoir sauvé Rudolf. Hein. C'est, ça, je pense.
C'est un peu moi, mais c'était surtout la concoyote, il me semble.
Même si tu l'as traité de clodo.
C'était par le pouvoir de Chuck Berry.
Sans mon diagnostic. On serait pas allé loin.
C'est vrai.
Alors on est sur des bails de couverts amovibles, c'est-à-dire que le Père Noël a bien compris que j'étais un grand aventurier.
Ah bah le 13ème c'est la jungle. Hein, c'est...
Donc on est sur un couteau suisse, mais avec une fourchette.
Et une cuillère,
et
je crois,
une
non
cuillère. Ouais, voilà. Et j'ai crié dans le micro pour dire ça.
Un nouveau boîte
et un couteau. Oh, c'est la fête.
Par contre, alors ça a l'air honnêtement vachement bien, mais c'est vite compliqué si vous coupez ta viande, quoi. Parce que vu que la fourchette et le couteau sont.
on ira tuer mais un animal pour le savoir.
Je crois qu'ils sont amovibles d'après le Père Noël, non?
Oh,
ça dépend de quel modèle.
Ouais. C'est écrit sur la boîte que
normalement
je
tu peux les séparer. Ouais.
Oh, ah, c'est
ouais,
complètement amovible.
Couvert amovible.
Ou c'est complètement cassé, là, on sait pas trop.
Non, c'était un bruit d'amovabilité, ça.
Ah, mais le Père Noël défonce.
Formidable.
D'ailleurs, ouais. Pour les auditeurs, en fait, on va vraiment dire des trucs après, vous inquiétez pas, on fait pas que du.
Il y aura un vrai épisode, mais laissez-nous apprécier notre compagnie entre nous. Voilà.
Vous inquiétez la pas. Magie de Noël.
Ça va venir.
Mais on vous embrasse quand même.
Alors, Hicham, tu as quand même un emballage avec des chats qui font du ski.
Non, c'est un ours qui fait du ski. Écharpe rouge.
Mais parce que Michel avait...
Chroniqueur animalier.
Michel avait compris que t'étais un chroniqueur animalier.
Bah oui.
D'ailleurs, tu sais que tous les auditeurs te réclament un chroniqueur animalier. Et je suis fou.
Mais il y a plein de choses dedans.
Et ouais. Oh.
Donc, de la bœuf.
Non. Précise, le Père Noël ne fera pas de weed. C'est intéressant que tu lises pas à l'intérieur, là où il y a marqué les trucs.
Non, mais je comprenais pas. Essentials Laos Herbs. Ouh, le Père Noël sait que j'aime bien cuisiner.
N'est-ce pas? Le Père Noël te connaît bien.
Oh là là, il est trop fort.
Aromatic and distinct. Bon, je lirai plus tard. Donc,
en gros, c'est des herbes aromatiques de cuisine.
Pour faire du vin chaud.
Oh.
De l'urine en bouteille.
Ma préférée.
Banana Lao Lao.
Le Père Noël m'a glissé à l'oreille que le Lao Lao, c'est le whisky laotien.
Et
tout ça à partir de riz.
Starfula, mais ok, voilà, cool.
Celui-là, il est à base de banane, apparemment.
J'avoue, Starfula, quand même.
Il y a plein de choses dans ce puits, dans ce truc.
Bah, attends, prends peut-être l'autre petite fiole avant.
Parce que ça j'en va. J'en ai pas vu.
T'as bien briefé le Père Noël.
T'as vu?
Alors, et maintenant, c'est le pepper and chili salt. Ah, bah, c'est super, ça.
Bah, ça, c'est très, très bon.
Le Père Noël a apprécié tes compétences. Hein.
Ah, bah, ouais, écoute.
Génial, on va devoir s'acheter une nouvelle cuisine. On a plus de place pour les épices. Merci.
Il y a toujours de la place pour les épices. Et du coup, une petite boîte avec écrit dessus en langue bizarre et cigarette traditionnelle Lao.
Oh.
Ok.
Starfula aussi, hein.
Oui. Surtout que je ne fume pas.
J'avoue. pour Noël, on t'offre des clopes.
Alors, je vois que tu galères à l'ouvrir. Si tu veux, j'ai un couteau
suisse. Ah bah oui, ah bah putain, Père Noël, franchement, il est super.
Moi, si tu veux, j'ai un drapeau de Franche-Comté pour t'aider.
Tiens.
Et d'après le Père Noël, donc ce sont des. Moi, je ne répète que c'est dire. Ce sont des cigarettes traditionnelles laotiennes. Et en fait, c'est des cigarettes avec du tabac laotien.
Jusque-là, ça va.
Et qui sont roulées dans des feuilles de bananier.
C'est ouf!
C'est des cigares.
Bah, c'est juste qu'au lieu de prendre du papier, c'est des feuilles de bananier. En fait, c'est exactement la même technique et les mêmes produits qu'ils utilisaient pour rouler les cigarettes des rois.
Voilà. Wow.
Mais c'est super bien roulé.
Et chouchou.
C'est super beau.
Mais c'est roulé par des moines.
C'est vrai que c'est très très beau à voir.
C'est roulé par des moines, tu dois savoir.
C'est vraiment formidable.
c'est incroyable.
Merci Père Noël.
Merci Père Noël. Mais attends.
Et il s'avère que le Père Noël est prévoyant.
Et ouais. Il avait un petit option. Enfin. Tiens, Juan parle parce que je m'éloigne du
micro. Oui, le Père Noël avait du temps cet après-midi. Donc.
Elodie n'était pas prévue au programme à la base. Heureusement, le Père Noël est quand même. Très très réactif.
Oh oui, c'est la Père Noël.
Le Père Noël a un channel Slack qui lui permet d'être assez réactif.
Bon, du coup, je suis un peu gênée.
Et de prévoir les bails.
Tu peux.
Un très beau papier cadeau noir.
Ah, ça, c'est pas Yoann qui a emballé. Hein.
Mais non, c'est le Père Noël.
Je te balance.
Oh, la vie secrète des arbres.
Parce que ça, le Père Noël sait que tu aimes les arbres.
Et ouais. Et comment il communique?
Ah,
merci, c'est trop cool.
Merci Papa Noël.
On communique
merci,
ce que tu nous avais,
oh, trop cool.
Ce que tu nous avais raconté dans l'épisode 7 de Pardon Maman.
C'est
n'est-ce
ça.
N'est-ce pas? Oh, merci beaucoup.
Tout est sujet à pub.
Voilà, maintenant que nous avons déballé nos magnifiques cadeaux, on va pouvoir passer à l'ordre du jour.
On va pouvoir commencer à faire ce pour quoi on est là.
Allez,
finalement,
rentrer un petit peu dans le dur.
Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? C'est moi qui vais commencer en vous parlant des monstres de Noël.
Ah, sur les gens que combat le Papa Noël.
Alors, pas exactement, on y reviendra. Ensuite, Camille.
Oui, c'est moi.
De quoi tu vas nous parler?
De l'histoire de Noël, mais je ne vais pas vous parler de l'histoire religieuse de Noël, mais de l'histoire de la célébration de Noël.
La teuf, quoi.
La teuf, ou pas.
Ensuite.
Ichoufou.
Des sapins de Noël.
Des sapins de... Ok.
On dit Noël.
Mais j'ai écrit Noël.
Tu sais que le sapin n'est pas un animal.
Merde.
Et après ce sujet sur les sapins, je pense qu'on verra un petit peu ce qu'on fait.
On verra ce qui se passe.
Voilà. Hein, il se passera sûrement rien de spécial d'ailleurs. Généralement,
non, pas du tout.
Généralement, ce genre de teasing amène à rien.
On n'est pas
du
tout,
rien du tout.
On n'est pas du tout habitué aux épisodes de 4 heures, donc.
Non. Bon allez, on va s'y mettre.
Allons-y.
Noël. Mis à part le fait qu'on a une critique consumériste tous les ans sur Noël, c'est une fête qui est quand même plutôt positive. On est d'accord?
Oui.
La joie, l'amour, le partage, les cadeaux, le foie. C'est pas... Ça aussi, certaines personnes te diraient pas forcément que c'est positif.
C'est vrai.
Mais en effet. Et tous les pays de l'ancienne Europe ont leur lot de mythes sordides liés aux fêtes de Noël. Alors là, je vous parle de vrais méchants. Donc pas les casseurs flotteurs, de Maman j'ai raté l'avion, pas Aurel Sanégringe, pas Hans Gruber. Hans Gruber, c'est qui?
Die Hard.
Très bien.
Blablabla.
Qui est pourtant un symbole de Noël. Pas non plus le Grinch.
Oh non.
Étonnamment. C'est pourquoi? Parce que le Grinch, il a été inventé en 1957.
Ah.
Et en plus, il est gentil au final. C'était créé par le Dr. Seuss, le Grinch, pour info. Donc non, on va faire plutôt dans le dark. Donc il faut savoir que déjà tous ces mythes sont liés à Saint-Nicolas. Peut-être que Camille nous parlera de Saint-Nicolas tout à l'heure. Pas trop, non, j'ai pas prévu de rentrer dans les détails.
Oui, voilà.
Mais Saint-Nicolas, c'était un mec qui s'appelait Nicolas et qui était...
Saint.
Très bien, vous suivez.
Je connais ça.
Alors on va commencer facile avec le père Fouettard.
Oh, il m'a tellement terrorisé dans mon enfance.
C'est vrai?
Oui, parce que j'ai fait une partie de ma scolarité en Lorraine, et à l'école, on avait Saint-Nicolas, le père Fouettard qui venait, et je garde des images terribles de ce fameux père Fouettard.
Nabil, ouais. C'est très bien ce que tu dis, que tu nous dises que c'était en Lorraine, parce qu'en effet, le père Fouettard, tout le monde ne le sait pas, vient de Lorraine, de la ville de Metz, pour être plus précis.
Ça t'est de Spoons.
J'essayais de mettre une ambiance, là, putain. Bon, tant pis, il n'y a plus d'ambiance. Et donc, il accompagnait Saint-Nicolas pour punir les enfants passage. C'était un grand gars avec un manteau de fourrure, une barbe bien dégueulasse, des cheveux gras. Et donc, la petite histoire du père Fouettard, c'est que trois enfants se seraient perdus sur le chemin du retour, en Lorraine. et ils auraient croisé un boucher qui s'appelait Peter Schwartz. Et ce boucher, au lieu de leur indiquer le chemin de la maison, ils auraient dit « Venez, suivez-moi ». Il les a ramenés chez lui, il les a coupés en morceaux, il les a foutus dans un baril de sel pour faire du petit salé.
D'accord, mais, dire que... non, mais le début de l'histoire, ça me fait plus penser à Émile Louis qu'au Perfecteur.
On n'est pas loin, on est sur du Émile Louis.
Au petit poussé.
Mais Saint-Nicolas passait par là. Et Saint-Nicolas, bah, il est plutôt gentil. Alors il est allé chez le boucher, il est allé au-dessus du tonneau de sel, il a fait tugulugulugulugulugulugulugul, hop, il les a ressuscités, et voilà, Saint-Nicolas, on est content, et Peter Schwartz est devenu le Père Fouettard.
Ah, c'est lui.
Et c'était lui. On a beaucoup de variantes du Père Fouettard. J'aurais pu en fait vous faire une petite partie sur chacun d'entre eux, mais en gros, c'est un peu toujours le même mythe. Faut savoir que d'ailleurs, le Père Fouettard, on l'appelle aussi le tanneur de fesses.
Putain,
ça pas mal, parce qu'il mettait des coups de rameau. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père Fouettard.
C'est sûr que c'est pas vers Pigalle qu'on l'appelle comme ça.
Non. Donc il a ses variantes, notamment en Alsace, on l'appelle Hans Trapp.
Oula.
Voilà. Au Benelux, on l'appelle Zwarte Piet. Je parle pas trop le Beneluxois. Sauf que dans la version du Zwarte Piet, il amène les enfants en Espagne pour les rééduquer.
What?
Ouais, au lieu de les amener pour les maraves à coups de fouet, il les amène en Espagne pour les rééduquer.
Et ça, c'est au Luxembourg?
Ouais. Mais en Belgique ou au Luxembourg.
Mais qu'il a vu qu'il y avait des vols pas chers
et au Pays-Bas.
Ou...
Bah écoute, je sais pas. En revanche, c'est une idée de merde de les amener en Espagne parce qu'en Espagne, il y a El Cuco. El Cuco. Et la version espagnole, alors c'est un espèce de gobelin à la con qui se cache dans les penderies des enfants.
Quoi ?
Et qui attend qu'ils dorment dans la période de Noël pour les bouffer.
Putain de Dieu.
Et oui, El Cuco, il est représenté comme un gobelin ou comme une femelle dragon. Alors je sais pas comment ils ont su que c'était une femelle exactement, mais. Voilà.
Sauf que les deux sont à ce fin. Dans ma tête,
c'est pas la même taille. Hein.
C'est pas tout à fait le même type de bestiole, en effet. Ensuite, on a Krampus. Vous connaissez Krampus ?
Oui, ça me dit quelque chose.
Non, pas du tout.
Non
un espèce de, pas un espèce de démon, mais. Ouais, il a une tête un peu diabolique, un peu comme une gargouille, en fait.
Bah, c'est littéralement un démon, en fait. C'est moitié démon, moitié chèvre. Bah, Krampus, il nous vient d'Allemagne. Donc il est bien dégueulasse et il accompagnait Saint-Nicolas dans le folklore allemand. Souvent on l'a rapproché du dieu cornu. Le dieu cornu, c'est le dieu que vénéraient les sorcières dans les mythes et les cultes païens. Et donc si t'as été méchant, Krampus t'attrape, il te met dans ton sac, dans son sac, c'est mieux. dans ton propre sac et il t'emmène en enfer.
Bon, c'est déjà vachement plus loin que l'Espagne, quoi.
Ouais.
Et dans une boule de Noël.
Plus douloureux. Alors pas dans une boule de Noël, ça c'est dans le film Krampus, mais ça n'est pas dans la légende. Par contre, l'avantage c'est que tu peux l'entendre venir de loin parce qu'il a, il a des chaînes avec lui et des grelots. Donc je sais pas ce que tu peux faire contre un démon chèvre, mais en tout cas au moins tu l'entends venir. Ensuite on a Perchta. Ça se prononce sûrement pas comme ça. Perchta, c'est une déesse bavaroise qui se promenait dans les maisons donc pendant les 12 jours avant l'épiphanie. C'était une espèce de déesse de lumière. Donc on imaginait un truc plutôt positif pendant toute l'année, sauf pendant les 2 jours avant l'épiphanie où elle avait en fait la capacité de savoir si les enfants avaient été sages ou pas. Et si c'était pas le cas, elle rentrait dans la maison, elle leur ouvrait le bide, elle sortait les tripes, elle sortait l'estomac et elle les remplaçait par de la paille et des cailloux.
Elle s'appelle Maïté, c'est ça, non ?
Elle s'appelait pas Maïté, elle s'appelait Perchta.
Oh les enfants !
Oh les anguilles !
Alors, on va passer à l'Islande. Alors, en Islande, ils sont pas gâtés. Ils ont que ça, en fait, des légendes dégueulasses de Noël.
Bah, c'est Noël tous les ans, enfin, tous les jours, là-bas, non ?
Oui. Ah, c'était une référence au mauvais temps ?
Oui.
Wink, wink. Alors, en Islande, ils ont Grilla, la troll. Alors, c'est soit une troll, soit une géante, en fonction des versions. Donc, Grilla, la troll, elle s'enjaille en kidnappant des petits-enfants. Pour changer.
Ok.
Ensuite, elle les ramène chez elle, et elle les fait bouillir. Pour les manger.
Pour les attendrir.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui a donné goût à manger des enfants ? C'est qu'elle a été mariée 2 fois avant. Et elle a mangé ses 2 maris précédents parce qu'il lui cassait les couilles.
Putain.
Elle s'est dit, je vais continuer avec les enfants. C'est plus facile à attraper que les maris parce qu'elle commençait quand même à vieillir. Et quand elle a la flemme, Grilla la troll, elle fait appel à ses sbires, qui s'appellent les Jolasveiner. Les Jolasveiner, c'est 13 elfes ou nains, selon les versions, qui vont marrer les enfants à sa place, en gros, quand elle a la flemme. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, si je vous parle des 7 nains, vous voyez à peu près Hachou, Grincheux,
Dormeur,
voilà. Oh. Et ben ceux-là aussi ont des noms. Donc en fait, il est possible que les 7 nains aient été d'une manière ou d'une autre inspirés du même genre de légende en fait. Donc je vais vous donner leur nom parce qu'ils s'appellent pas Grincheux, Dormeur ou machin. C'est celui qui. Donc ce serait par exemple celui qui est Grincheux, celui qui est Dormeur, celui qui est timide. Alors, on a celui qui guette les agneaux dans l'enclos, celui qui se faufile par les ravins, celui qui lèche les cuillères en bois.
Ah. Pourquoi ?
Alors, ils aiment bien lécher parce qu'il y a aussi celui qui lèche les marmites.
Il n'a plus besoin de lave-vaisselle.
Non. Celui qui lèche les bols. Ils aiment bien lécher les trucs. Celui qui claque les portes. Lui, ça doit être le plus relou, je pense.
Pas bien te finir le bordel.
Celui qui mange le fromage.
Ah. Ah non, ah non.
Celui qui vole les saucisses. Celui qui regarde par la fenêtre, le plus flippant.
Oh, oui. Rien d'autre à faire,
celui qui renifle aux portes. Alors ça, j'ai pas compris.
C'est celui-là le plus flippant.
Qui vient sentir s'il y a du fromage et de la saucisse pour les autres, peut-être.
Il y a un problème de traduction là, je pense.
Celui qui vole la viande et celui qui quémande des bougies.
Ça se vend quand même moins que Grincheux,
Hatchoum et tout ça. Oui, c'est sûr. Mais en gros, le principe, c'est qu'ils utilisaient tout leur super pouvoir de merde pour faire chier en fait les locaux.
Celui qui lèche le service à vaisselle.
Les Power Rangers low cost.
Un peu. Et pour finir, en Islande, on a. Parce que bon, il y a la maman, il y a les 13 elfes, et ils ont aussi un chat. Ils ont un chat qui s'appelle Jólakötturin.
Oui, tu parles très bien l'islandais.
Merci. Je fais des efforts. C'est un gros chat moche. Enfin, tu sais, il est maigre, mais en même temps, il a un gros ventre, tu vois.
Ah,
un peu comme ouais, quelqu'un qui a des gaz de ouf. Et donc, sa particularité, c'est qu'il mange des enfants qui ne portent pas au moins un vêtement neuf la veille de Noël. Ou les jours avant la veille de Noël.
Mais si tes parents, ils sont pauvres, c'est horrible.
Alors, au-delà du fait qu'ils sont pauvres, techniquement, les vêtements neufs, tu les as pour Noël.
Et puis,
pas avant.
Surtout qu'ils sont neufs tant que tu les as pas portés. Si tu le portes, il est plus neuf. Allez,
en plus,
merci.
Champion.
C'est peut-être pour ça que les gens ouvrent les cadeaux la veille de Noël.
Alors.
Non, c'est parce que c'est relou d'attendre.
Pourquoi ? En fait, la théorie voudrait qu'il y avait des contremaîtres en Islande qui faisaient travailler des ouvriers et qui faisaient des vêtements. Et en gros, ils avaient créé cette légende pour les forcer à finir le travail avant les fêtes. Mmh.
D'accord.
On protège la population.
Exactement.
Si les gens n'ont pas de vêtements
neufs. Si les gens n'ont pas de vêtements neufs, ils vont se faire marave par le chat. Donc ils étaient peut-être un petit peu crédules. Hein ?
Oui.
L'avenir nous le dira.
D'où est née la superstition des chats noirs ou rien à voir ?
Absolument rien à voir.
Okay,
du coup, il était potentiellement gris avec des petites rayures noires sur le dos. Et une petite dernière pour la route qui n'est pas un monstre de Noël à proprement parler, mais j'avais envie de vous en parler quand même. C'est une tradition qui nous vient du Pays de Galles, qui s'appelle la tradition de Marylwyd. Et cette tradition, vous avez peut-être déjà vu ça sur une image d'Épinal, un truc comme ça. C'est un crâne de cheval sur un bâton. Un crâne de cheval, vraiment le squelette, hein, sur un bâton avec un voile de mariée derrière.
C'est flippant.
Alors, c'est flippant, mais en fait, ça ne l'est pas. Je vais t'expliquer. C'est que, en gros, au début des années 1800, pendant la période de Noël, au Pays de Galles, il y avait des groupes d'hommes qui fabriquaient cette espèce de totem et qui s'habillaient un petit peu n'importe comment et qui allaient de maison en maison. Avec ce crâne de cheval, ils allaient se mettre devant la porte. Ils frappaient à la porte. Quelqu'un ouvrait. Et la tradition voulait que les personnes qui ouvraient la porte leur refusent l'hospitalité. Parce que c'est un crâne de cheval, c'est plus ou moins mauvais augure.
Je refuse le démon.
Et la stratégie, c'est que les mecs qui avaient le crâne de cheval, ils commençaient à chanter leur demande. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Dans le but d'être pénible. Mais là où ça devient drôle, c'est qu'en face.
Ils avaient le droit de tirer sur les mecs.
Non. En face, ils devaient répondre par la négative
en chantant
également. Non, tu rentras pas, je t'emmerde. Nanana. Et ainsi de suite, ils se renvoyaient la balle jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait marre.
Mais c'est quoi cette tradition de...
C'est formidable.
C'est insupportable. C'est-à-dire que
c'est parfaitement insupportable. C'est très proche du trick or treat pour Halloween.
Sauf que là, il n'y a pas de fin. Quoi.
Sauf que là, il y a une fin. C'est-à-dire que si le résident finit par dire « Bon, allez, vous me cassez les couilles », ils rentrent et ils viennent festoyer à la maison. On leur offre à manger, à boire et voilà. Si par contre, c'est les mecs avec la tête de cheval qui en ont marre avant, ils vont à la maison d'après. Donc ce qui devait être relou, c'est quand t'étais le voisin à côté, que tu les voyais faire leur bordel pendant une demi-heure, et que là t'entendais la porte claquer, tu faisais « Putain,
c'est pour nous,
c'est mon tour !» Et c'est tout pour les monstres de Noël.
Et c'était bien flippant.
Bravo.
C'était bien intéressant.
Si peu.
Je sais pas lequel était flippant, mais plus flippant. Mais...
Je suis
le mec
déçu.
Qui reniflait pas.
T'es un peu déçu, pourquoi
T'as pas parlé du barbu en Arabie Saoudite qui travaille à Chop Chop Square.
Mais oui, il bosse.
Oui, alors...
C'est pas vraiment l'ennemi du Père Noël.
Tu me prends au dépourvu.
C'est un ennemi du Père Noël.
Oui,
Père Noël, c'est un mécréant.
Là, je crois que c'est même plus un terrain glissant. C'est un terrain, mais genre vertical, quoi.
Allez, on enchaîne. Une piste de bobsleigh, on appelle ça.
Allez, du coup, on va passer au sujet de Camille.
Allons-y.
I'll have a blue. Joyeux Noël, les girafes! Joyeux Noël, les singes!
Oh, que dessert, c'est une bûche!
Non, c'est Clouc.
Non.
Allez hop, à Créteil.
Gratuité.
À Créteil?
C'était un spécial Père Noël et ordure.
D'accord.
Voilà. Allez hop, à Créteil. Alors, l'origine de Noël... Enfin, Noël ne trouve pas son origine à Créteil, mais ailleurs.
Franche-Comté, non. C'est tout pour moi, merci.
Allez bien vous faire foutre. Donc non. Donc je vais vous parler en fait un petit peu de l'histoire de la fête de Noël. Et pour ça, il faut comprendre un petit peu l'origine de Noël. Alors, dans les textes, on ne mentionne absolument jamais la date de la naissance de Jésus. Ce qui a été un problème quand on a voulu commencer à, entre guillemets, organiser l'église, organiser les fêtes religieuses. À l'origine, on célèbre la nativité le 6 janvier. Voilà, donc pas du tout le 25 décembre.
Mmh. Okay.
Ok.
Ah oui, bah avec les gros barbus qui sont là, qui ont ramené des gâteaux et du parfum. Et...
Oui, voilà, exactement, à ce moment-là. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, pour l'église apostolique arménienne, Noël est célébré le 6 janvier.
Okay. Ah oui.
Voilà.
Donc Aznavour, lui...
Voilà, c'est le 6 janvier.
D'accord.
Voilà. En fait, la date du 25 décembre, elle a été fixée de façon totalement arbitraire au milieu du 4e siècle. Pourquoi ? Telle est la question. En fait, l'origine de la fête de Noël, elle se trouve dans les Saturnales. Donc les Saturnales, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
C'était une planète
Alors, non, c'était les fêtes païennes, non ?
Alors effectivement, ouais. C'est une fête païenne, c'est en rapport avec le dieu Saturne. Donc c'était la fête en l'honneur du dieu Saturne. Et ça se déroulait dans la Rome antique, et c'était entre le 17 décembre et le 25 décembre. C'était une grosse semaine de festivités. Donc on faisait une grosse fête, des repas et des échanges de cadeaux à l'occasion de cette fête. Et ensuite, on va associer également cette fête à la fête du soleil invaincu. En fait, on célébrait le fait que les jours deviennent plus longs. Donc, on mettait la lumière absolument partout, du feu, des chandelles, et on brûlait énormément de bûches. Je pense que vous avez pas mal de petits liens qui commencent à se faire dans vos têtes. Donc d'où la tradition des illuminations de Noël, un petit peu plus tard aujourd'hui, que c'est une fête de la lumière, et également de la bûche de Noël. Ça vient aussi de là. Donc lors des Saturnales, on offre également plein de petits présents aux enfants, c'est la coutume, et on porte des guirlandes autour du cou. Voilà.
Donc, commence à y avoir beaucoup d'indices.
N'est-ce pas ? Voilà, donc on a tout pompé en fait. Et en fait, en 354, le pape Libère décide que la naissance du Christ sera fixée à cette date-là, étant donné qu'on était dans une période où on essayait de convertir à fond les ballons les derniers païens qu'il pouvait y avoir dans l'Empire romain. Et on s'est dit, bon, bah, associer la naissance de Jésus à une date où ils ont déjà l'habitude de faire la teuf tous les ans, ce sera quand même vachement plus simple.
Et puis ça a souvent été fait de récupérer
des
fêtes païennes.
Ah oui, c'est très très régulier. Donc, on commence à célébrer la naissance du Christ le soir du 24 décembre et la journée du 25. Donc la fête va se répandre progressivement dans tout le monde occidental et Noël devient une fête d'obligation pour les chrétiens en 506 et un jour chômé en 529.
Mmh.
Voilà. Donc,
529 ?
En 529, Noël devient un jour férié.
C'est vieux, putain.
Tu veux dire par rapport à la naissance de Jésus ? Ah non, par rapport à nous ? Non, mais qu'est-ce que 1500 ans ?
Par rapport
à l'histoire de l'humanité. Oui. Voilà. Après l'Antiquité vient une autre période de notre histoire.
Le Moyen-Âge.
Oui, bravo Ichouchou.
Sachant que 500, c'est déjà le Moyen-Âge, sans vouloir failloter. Mais...
Oui, c'est le début du Moyen-Âge, exactement. Donc en fait, au Moyen-Âge, c'est là qu'on va commencer vraiment à façonner le Noël qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a plusieurs traditions qui vont soit être quasiment identiques à celles qu'on a aujourd'hui, soit vont inspirer nos traditions actuelles. Donc par exemple, il y a toujours cette idée de bûche. En fait, on jetait une bûche dans l'âtre le soir de Noël, donc la fameuse bûche de Noël. Elle devait tenir toute la nuit. Alors là, je sais pas du tout comment ils faisaient pour faire tenir une bûche toute une nuit.
Très grosse bûche, quoi.
Voilà, moi j'y crois pas une seule seconde. Enfin, c'était un tronc de baobab, le truc, j'en sais rien. Et on aspergeait la bûche avec de l'huile, du vin, du sel. Et cette bûche protégeait la maison des démons.
T'as pas confondu avec un gigot d'agneau ou...
Non. Et ensuite, on gardait les cendres le lendemain pour les mettre devant la porte, pour que la Vierge Marie puisse venir se réchauffer devant la porte.
Dans des cendres.
Non, mais elle pouvait venir comme ça devant les shorts et devant les cendres. Devant les cendres, pardon, et se chauffer les mains comme ça.
Oh, c'est ok.
Voilà. Donc Noël au Moyen-Âge, ça devient un jour très important, très sacré. Mais c'est pas la fête la plus célébrée durant toute l'histoire de l'époque chrétienne. Jusqu'à assez récemment, en fait, la fête chrétienne la plus célébrée, c'est...
Pâques.
Ouais, yes. Pâques a été, pendant toute notre humanité, loin devant Noël en termes de festivités et de célébrations. Et donc, ça reste néanmoins un jour important. Les grands vont aimer créer des gros événements le jour de Noël. Par exemple, on aime bien se marier le jour de Noël, faire baptiser un enfant le jour de Noël, ou Charlemagne va se faire couronner empereur le jour de Noël 800. Et Guillaume le Conquérant, le premier entre guillemets roi d'Angleterre, a également été couronné roi d'Angleterre en 1066, je crois, à Noël 1066. Voilà.
Mais c'était l'occasion de récupérer toute l'attention du peuple, parce que vu que c'était un jour férié, chômé, c'était ça ou...
Oui, probablement, et puis de se placer sous Noël. En fait, aujourd'hui, on l'assimile vraiment à la naissance de Jésus, mais Noël, durant tout le Moyen-Âge, c'était plus assimilé au personnage de la Vierge.
Ok.
Voilà. Donc, c'était une façon aussi plus ou moins de se mettre sous la protection de la Vierge Marie.
Et puis, c'est qu'elle fait le plus gros du travail, donc je comprends.
Oui, clairement, lui, il a juste eu à sortir, elle était là, pousser madame, entre un âne, un agneau, les conditions d'hygiène de l'époque, mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Donc, c'est également le Moyen-Âge, la période où on met en place l'Avent. Donc, alors nous, ça se fait de moins en moins, enfin, c'est vraiment pour les enfants, j'ai l'impression, ce système de l'Avent avec les petits chocolats.
Ça se relance avec les calendriers de bière, maintenant.
Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà.
On a fait 4x3 partout dans le métro avec des calendriers de l'Avent.
Donc c'est à cette époque-là qu'on décide de fixer une période de l'Avent. Donc rien de très étonnant, parce qu'au Moyen-Âge, on décide qu'avant chaque fête religieuse, il y aura une période de jeûne qui sera associée. Donc par exemple, on a carême avant Pâques. On se dit, bon, faut faire un petit Avent avant Noël. Alors au début, on sait...
Fort.
Voilà. Donc au début, on s'est un peu emballé, étant donné qu'au début du Moyen-Âge, l'Avent commençait le 11 novembre. Donc oui. Tu tapais un mois et demi de jeûne.
De chocolat, mon pote.
Ah, ça me rappelle quelque chose.
Ah oui, il n'y a pas un lien avec...
C'est le ramadan d'avant, c'est ça.
Et ensuite, on ne s'est pas fait chier, on s'est dit non, c'est trop long ces conneries.
On va jeûner juste l'après-midi, et puis après...
Non, mais 8 jours avant Noël. Et c'est depuis très récemment qu'au final, on l'a mis les 24 jours d'avant Noël. Mais au Moyen-Âge, pendant toute une bonne partie du Moyen-Âge, c'était juste 8 jours avant Noël.
Mais je me pose une question, quelle était la signification ou le besoin de ce jeûne? Est-ce que c'était parce que, vu qu'ils allaient faire une grande fête, ils allaient dépenser beaucoup et que du coup, ils ne pouvaient pas se permettre de...
Alors oui, tu as forcément une question pratique, mais qui n'est pas la question qui est mise en avant par l'Église.
Oui, bien sûr.
Si tu veux, l'idée, c'est de se purifier.
Okay.
Pour se préparer à être digne de cette fête, à être digne de... Voilà. Le jeûne, aujourd'hui, on pense à on va manger moins de chocolat et moins de mayonnaise. Mais à cette époque-là, ça va être un jeûne alimentaire, également un jeûne religieux, sexuel, pardon, rien à voir. Un jeûne sexuel, c'est des périodes aussi où on ne va pas s'offrir de nouveaux vêtements, c'est vraiment une période où on se prive un petit peu de tout pour s'enjailler de ouf par la suite.
Pour profiter des excès par la suite.
Ouais. Exactement, c'est l'idée. Voilà pour ce qui est de l'Avent. Si, ce que je peux vous dire aussi à propos de l'Avent, c'est que jusque dans les années 60, il y a eu des calendriers de l'Avent, donc le but étant de faire patienter les enfants du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Voilà, et sauf que auparavant,
oui,
c'était aussi des petites fenêtres qu'ils ouvraient sur un calendrier, mais ils avaient soit une image pieuse, soit une petite phrase de morale. Enfin, bref.
Des anges. Bah,
Jésus soit avec toi.
Voilà, vachement moins sympa que des chocolats Kinder, quoi. Donc, au Moyen-Âge également, on va fêter Noël avec des mystères. Et ça, c'est notamment à partir du XIIe siècle. Est-ce que vous voyez ce qu'est un mystère? Avec un L majuscule.
une énigme?
Non, un mystère, en fait, c'est l'ancêtre de nos pièces de théâtre, en quelque sorte. Donc, c'est les pièces de théâtre qui étaient... ça représente 95%, peut-être même plus, des productions de théâtre au Moyen-Âge. Et donc, c'était des pièces de théâtre gratuites pour tout le peuple qui étaient jouées sur les parvis ou sur les grandes places des villes. Ça, 100% des sujets étaient religieux. Hein. C'était des scènes de la Bible, du Nouveau, de l'Ancien Testament ou quoi. Donc là, pour les mystères... de la nativité, forcément, on faisait soit la naissance de Jésus, soit l'arrivée des rois mages, ce genre de choses. Et si on était projeté au Moyen-Âge, là tout de suite maintenant, ça nous semblerait tout à fait loufoque et grotesque, étant donné qu'il y avait un surplus de maquillage, de décors, des artifices absolument ridicules, et les femmes n'ayant pas le droit de faire du théâtre, c'était des hommes...
Des jeunes enfants ou...
Ah non, des bonhommes qui jouaient la Vierge Marie. Ah, Jésus, prends ton biberon et tout. Enfin, voilà. C'est donc.
Je suis vachement bien la Vierge Marie.
Oui, je sais. Et on s'y croirait. Donc voilà, il y avait ces mystères donc qui étaient entre guillemets un des seuls divertissements avec les peines capitales que le peuple pouvait s'offrir à l'époque. Voilà. Au Moyen Âge, c'est également la période où apparaît la première crèche de Noël.
Mmh. Mmh. Mais sous quelle forme ?
La première forme de crèche de Noël, c'était une...
Playmobil.
Non.
Des vrais animaux.
Une crèche vivante.
Voilà.
Donc avec des vrais personnages.
Qu'on mettait un vrai bébé dans un berceau.
C'est ça. Et donc elle a été faite en... on le laissait comme ça. Et il mourait. Et c'était en 1223. Ça a été fait en Italie par François d'Assise. Donc il s'est dit, en gros, on va se faire une petite crèche. Et pour, entre guillemets, commémorer cette crèche vivante de François d'Assise, on a décidé de faire des crèches... en terre cuite ou des santons ou des crèches napolitaines, enfin bref, je vais pas vous faire tout l'historique des crèches qui existent aujourd'hui, il y en a plein, mais voilà. Donc, au Moyen-Âge, ce que j'aimerais également vous dire, c'est que la période de Noël, c'est également une période de répit et de paix pour les gens. Vous savez que le Moyen-Âge, c'est une période où il y a énormément de guerres, de conflits, que ce soit avec des pays étrangers ou des guerres entre seigneurs. Et en fait, on va instaurer aux alentours de l'an 1000, le fameux an 1000, on va imposer en fait ce qu'on appelait la trêve de Dieu. Donc c'était une interdiction pour les seigneurs ou pour les chevaliers de se battre, sauf en cas de conflit international. Bon, par exemple, si les Anglais nous attaquent, on va pas dire « bon, c'est Noël, vous pouvez nous tuer ».
Non,
tu vois,
non, voilà. Tâchez, pousse.
Mais il y avait interdiction de faire des guerres, des petits conflits d'intérêts entre seigneurs ou quoi pendant la période de Noël. Donc la période de Noël, je ne sais pas exactement comment c'était défini au Moyen-Âge, je pense que ça incluait l'avant et ensuite la fête de Noël. Voilà. Okay. Et d'autres petites choses au Moyen-Âge plutôt amusantes, c'est qu'on célébrait également Noël avec la fête des fous. Vous en avez peut-être déjà entendu parler avec l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. La fête des fous, donc ça dépend des régions, ça avait toujours lieu autour de Noël, c'est... En gros, en France, ça dépendait des villes, mais c'était entre le 15 décembre et le 5-6 janvier. Et donc, c'était une fête où, dans la ville ou dans le village, tout était inversé. C'est-à-dire, les femmes devenaient des hommes, les hommes s'habillaient en femmes, le seigneur devenait un pauvre, le pauvre était un seigneur. Voilà, c'était la folie furieuse.
On serait devenu folle.
On pouvait faire absolument n'importe quoi toute la journée. On élisait le roi des fous, l'évêque des sceaux, enfin... n'importe quoi, et ça partait totalement en couille, c'est-à-dire qu'on a des témoignages de mariages qui étaient faits entre deux prêtres de sexe masculin, ou de couvents où ça dérivait en véritable orgie à l'intérieur, tout était permis, bien sûr l'église a très souvent condamné cette fête, le pouvoir à l'époque laissait faire, parce que c'était la journée entre guillemets où les gens pouvaient se défouler au Moyen-Âge, on les laissait faire n'importe quoi, et voilà.
Catharsis du peuple.
Exactement, donc ça souvent, voilà, ça tombait, tout le temps, ça tombait aux alentours de Noël. Et il y avait également la fête de l'âne, donc, qui était célébrée le 25 décembre dans pas mal de villes françaises. Donc, moi, je trouve ça assez drôle. Je ne connaissais pas du tout la fête de l'âne. Donc, en fait, c'est une parodie de la fuite en Égypte.
Mais l'âne, l'animal.
Oui, l'âne, l'animal.
Ça m'intéresse.
Ah. Et donc, en fait, on faisait rentrer dans une église une petite fille sur un âne avec un bébé dans les bras.
Oh.
Voilà. Il y avait toute une foule de moines qui suivaient.
Après.
Et ils chantaient les cantiques et les prières en faisant des i-an à la place des mots.
Oh là 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 là. Mais c'était fait où ça?
En France.
Oui. Voilà. On est à fait gratte-gratte. Voilà. Donc, donc j'aurais beaucoup aimé voir cette petite fête de l'âne. Donc laissons là le Moyen-Âge, passons à la période moderne. Donc je ne vous raconterai pas en détail comment est-ce qu'on fêtait Noël à l'époque de Louis XIV, tout simplement parce que c'était excessivement chiant.
Ok, allez, période suivante.
Non, mais voilà, on est dans une période où là, les petits détails que je vous ai racontés, c'est pour le bas peuple. Mais il faut vous imaginer que chez l'élite et les hautes sphères, on n'est pas du tout dans un climat, même au Moyen-Âge, de repas de famille, riche, gras, etc. C'est surtout de la prière, des heures passées dans l'église, enfin voilà, il faut vraiment vous imaginer quelque chose de très solennel et de très religieux. À l'époque moderne, on y est toujours, même si Noël se popularise de plus en plus, parce qu'il y a l'invention de l'imprimerie, donc toutes les personnes qui vont commencer à écrire des chants de Noël, par exemple, à cette époque-là, à l'époque moderne, il y avait déjà le... qu'est-ce que je pourrais vous dire de chants de Noël qui existait déjà ? Le Adeste Fideles, je sais pas si vous
voyez ce
que c'est.
Oui,
non.
Je n'ai aucune idée.
Venite adoremus. Non, ça vous dit
rien. Si.
Bon, ok. Bref, moi, okay, si vous êtes déjà allé à la messe de Noël, vous devez connaître ce chant.
Si, je la connais en anglais. Mais
donc, bah oh, non, pardon. Elle a été écrite qu'en latin, mais donc latin, tu dois la connaître ouais. en latin avec l'accent anglais.
Non, mais il n'y a pas des paroles anglaises qui ont été mises dessus.
Vanity, adoring.
Oui, I tell you what I want, what I really want.
C'est ça, oui.
I wanna enfin, hear him, I wanna hear him. Voilà. Et. Et donc en fait, il va y avoir plein de petits chants de Noël qui s'écrivent. On va pouvoir les diffuser au peuple par le biais de l'imprimerie, étant donné qu'on peut imprimer les chants de Noël, les paroles, les airs, etc. Donc, on commence à assimiler Noël à de la chanson, à de la musique, mais ça reste malgré tout une fête un petit peu plombante, solennelle, voilà, un petit peu dure à digérer. Et je vous rappelle que Noël est toujours moins célébré que Pâques. Et en plus, Noël va être rejeté par les protestants, parce que je vous ai dit, c'est une fête à cette époque-là qui est extrêmement assimilée à la Vierge Marie. Mmh. Et les protestants ne reconnaissent pas du tout la mère de Jésus comme étant vierge. Donc ils vont rejeter Noël. À tel point que Noël, on va interdire à la population de célébrer Noël au Royaume-Uni entre 1647 et 1660. Voilà, il y a une quinzaine d'années où Noël était illégal au Royaume-Uni.
À cause de du côté religieux, parce qu'on ne reconnaissait pas la Vierge Marie.
Voilà, parce que c'était trop catholique. Okay, et donc l'église anglicane n'a pas voulu reconnaître Noël.
Ah, privé de cadeaux.
Et la période moderne, c'est également la période des premiers Noëls en Amérique.
Aux Amériques.
Aux Amériques, pardon. Uh-huh. Autant pour moi.
Politiquement correct.
Donc le premier témoignage qu'on ait de Noël en Amérique du Nord, c'est en 1641, un missionnaire jésuite qui habitait à l'époque chez les Hurons, a décidé d'écrire un petit chant de Noël donc, qui s'appelait Jesus à Atonia. Et donc en fait ce chant de Noël il l'a écrit dans la langue huronne pour sensibiliser les hurons et pour les aider à se convertir. Mmh. Sauf qu'il s'est dit bon bah si je leur parle d'un gamin qui est né dans une crèche au fin fond du Proche-Orient, ça va pas leur parler. Donc il s'est dit bah je vais essayer de traduire cette histoire et de les sensibiliser un petit peu plus. Donc c'est-à-dire que l'enfant Jésus, plutôt que comme dans la Bible il est emmailloté dans des bandes de lin, bon bah là il était emmailloté dans une peau de lièvre. Comme, oh le faisait, comme le faisaient les Amérindiens. Également, il n'était pas dans une mangeoire, mais il était dans une cabane d'écorce.
Du manioc.
Il n'y a plus de bergers, il y a des chasseurs à la place. Et ce n'est pas des rois mages qui viennent admirer l'enfant Jésus, mais c'est trois chefs sioux. Voilà, pourquoi pas.
Okay.
C'est une bonne façon d'évangéliser.
Et au final, la naissance, en tout cas, de quelque chose qui peut vraiment ressembler au Noël qu'on connaît actuellement, c'est le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Parce que c'est déjà à cette époque-là qu'on va mettre en place le système du vrai festin de Noël, du vrai repas de Noël. Donc à partir du 19e siècle, c'est le moment où on décide qu'on va manger de la dinde ou du chapon, que vont se populariser l'idée du foie gras, du saumon.
Je veux dire, mais Tim, est-ce que tu as une idée de la, ou enfin, quelqu'un d'autre, de l'arrivée de la télévision ? La date ? À peu de chose près.
La naissance de la télévision en France ?
Bah, en France ou autre part, mais.
Je sais pas, moi j'irais les années 40.
Ouais, je dirais 50.
La fin des années 40,
ah
début
ouais,
des années 50.
Ouais. Ah, c'est peut-être la radio alors. Parce que je me dis que dès qu'il y a un moyen en fait, de recevoir les mêmes informations et de partager, du coup il y a aussi une envie de reproduire et de faire comme les autres en fait. Donc peut-être aussi ce qui a pu jouer sur le côté commercial.
C'est beaucoup plus simple que ça justement. Tu vas voir, je vais y venir, je vais te parler vraiment de ce qui a fait exploser Noël.
Une bombe, tout simplement.
Mais donc voilà, c'est là qu'on va voir les premières traditions culinaires de Noël. Par exemple, un plat typique de Noël en France pendant des années, mais qui est totalement tombé en désuétude aujourd'hui.
Le chapon.
Le boudin blanc.
Ah, moi j'aime bien toujours.
Voilà, oui, mais ça se fait de moins en moins de manger.
On est content.
Le boudin blanc et les bouchées à la reine à Noël, ça se fait de moins en moins. Et pourtant, il y a encore 50, 60 ans, c'était le plat en France typique de Noël.
The thing. Alors, voilà. Moi, j'ai jamais mangé de dinde ou de chapon à Noël. Hein. Je sais pas si je suis seule.
Si.
Mais...
si, moi j'en ai déjà mangé. Ouais.
Pas de chapon, mais de dinde, ouais.
C'est...
Je sais même pas c'est quoi un chapon, donc.
C'est un gros poulet.
Un gros volatile.
Un poulet avec
un gros volatile.
Tu vois
un ptérodactyle ou pas ?
Non, ouais. C'est ça.
Il lui a fait subir une opération qui l'a tellement vénère qu'il a beaucoup.
C'est un poulet sous testostérone. Quoi.
Non, on lui a fait un petit snip-snip et du coup il grossit beaucoup et voilà.
C'est le moment également où on invente le dessert de la bûche de Noël au 19e siècle. Ça a été inventé en France par des pâtissiers français. Et donc c'est en souvenir de cette fameuse bûche du Moyen-Âge qu'on mettait dans les cheminées pour réchauffer la Vierge Marie et de la bûche qu'on allumait à l'époque romaine pour faire de la lumière à fond les ballons. Et ensuite, le repas de Noël va s'adapter avec des spécificités régionales. Par exemple, en Provence, vous avez les 13 desserts. Et en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez les escargots. Voilà.
En dessert aussi ?
Non.
Oh.
Et donc, ce qui fait exploser vraiment Noël, tu parlais de la télévision, mais non, en fait, c'est plus simple que ça, c'est l'ouverture des grands magasins. La production, en fait, à la chaîne d'objets, on va se mettre à faire des jouets, et Noël, en fait, devient consumériste à partir du 19e siècle. C'est-à-dire que dans les familles humbles, on va continuer à offrir des oranges aux enfants, et dans la bourgeoisie, chez les artisans riches et dans l'élite, eh bien, on va au BHV, on va au printemps, donc ça existe déjà dans les années 1860, et c'est les grands magasins parisiens qui vont être les premiers magasins au monde à mettre en place des rayons spéciaux pour Noël, ouais, voilà.
Des jouets en bois,
voilà, à adapter les vitrines en période de fête pour donner en fait envie aux enfants d'avoir des cadeaux et pousser les parents un petit peu à l'achat. Voilà.
Un petit rappel tout bête, mais on ne disait pas encore le BHV à l'époque. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui débarquent à Paris depuis pas longtemps et qui font « mais BHV, c'est quoi ? C'est le bazar de l'hôtel de ville. »
Et d'ailleurs, en fait, je voulais pas du tout dire le BHV parce que le BHV n'existait pas encore à l'époque. Je voulais dire le bon marché, je suis désolée. Voilà, je rectifie. Mais oui.
Tu es toute pardonnée.
Notons également, petite anecdote, que les premières guirlandes électriques naissent à la toute fin du 19e siècle, dans les années 1880, la période des godemichés à vapeur, pour ceux qui se rappellent.
Pour ceux qui se rappellent, pour les auditeurs fidèles.
Voilà.
Il faut savoir que notre épisode sur les godemichés est le plus écouté, comme par hasard.
Ouais. Donc on voit ce qui vous intéresse, bravo. On vous faisait confiance et voilà.
Bref, Noël devient de plus en plus commercial et c'est dans les années 1950 que le modèle américain de Noël s'impose en France, c'est-à-dire qu'on commence à faire de la promotion pour les jouets plus d'un mois et demi avant Noël à partir des années 50, donc c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, toujours plus haut, toujours plus fort. Les magasins changent leur vitrine exprès de plus en plus, enfin en tout cas ça s'étend à tous les magasins, et le fameux Père Noël apparaît en France. Il y a également l'apparition des cadeaux entre adultes. Ça, c'est très récent, ça a une cinquantaine d'années.
Tu m'as dit, c'est en quelle année, là, du coup, Père Noël débarque en France ?
Dans les années 50.
D'accord. Okay.
Voilà, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Alors, pour contrer tout ça et cette idée, justement, d'un Noël de consommation, il y a, je sais pas si vous connaissiez, il y a un genre d'anté-Noël qui a été fait par les anti-américains capitalistes. C'est le 25 novembre, c'est la journée mondiale sans achat.
Ah oui, en effet.
Voilà, moi, je ne connaissais pas du tout. Alors oui, c'est assez récent, je crois. Et donc l'idée, c'est de contrer cette frénésie d'achat de Noël en faisant une journée sans achat.
Mais c'est con, parce qu'un mois après, bah, tu achètes des cadeaux.
Oui, ça, voilà. Non, mais c'est leur façon à eux de manifester. Notons également que le second jour de Noël, donc avec un S et un J majuscule, c'est une fête fériée dans plusieurs pays d'Europe.
Avec donc, un S et un J majuscule.
Oui, parce que c'est le second jour de Noël. Ah, comme fête. Okay. Le 26.
Noël avec un S et un J majuscule.
Voilà, ouais, ça s'appelle le second jour de Noël. C'est la continuité de la fête. Et c'est férié dans de nombreux pays d'Europe, comme la Pologne, les pays scandinaves,
et
le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
Ah, oui, c'est vrai.
Ouais, donc, c'est, voilà, eux, ils ont le double combo, 25-26. C'est plutôt étonnant.
C'est vachement bien.
Et je vous dirais également qu'il est interdit aujourd'hui de fêter Noël dans deux pays du monde. Est-ce que vous sauriez ? Non, ce n'est pas interdit par la loi.
Vraiment totalement interdit ?
Oui.
La Chine ?
Non.
Tchétchénie.
Ah, quel continent ?
Elle n'a pas révisé sa géographie.
Mais si, non, mais si, bah bon.
Donc c'est en Moyen-Orient.
Voilà, Afrique et Moyen-Orient. Oui. À dire ça.
Somalie.
Somalie.
Allez, ah,
et le deuxième ?
Ça doit être pas très loin du coup.
Le Yémen,
Israël.
Le sultanat de Brunei.
Ouais.
Ok. Voilà.
Et pourquoi ?
Sous Moyen-Orient, sultanat de Brunei.
Pourquoi Somalie ?
Bah oui, Brunei, pour moi, sous Moyen-Orient, non ?
Non, je sais pas, moi pareil, j'entends sultanat, je le vois pas dans les îles. Mais
pour moi, le sultanat de Brunei, c'est au Moyen-Orient, ouais, il me semble.
Ok.
Bref, on
fera un petit debunk.
À vérifier. Et enfin, Juan, toi, tu nous as parlé des monstres.
Non.
De Noël. Moi, j'avais envie de vous parler des autres Pères Noël. Donc, j'ai pas du tout envie de vous parler du Père Noël. J'y ai pensé, mais j'avais pas envie. En fait, ça me saoulait.
Oui, oui.
Donc, j'ai cherché.
Ça a été abordé dans 34 podcasts semaine dernière.
Donc, j'ai eu envie de vous parler des autres Pères Noël qui existent. Donc, il y a bien sûr le Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, qui est une légende quand même aujourd'hui, qui a plus de 1000 ans. Hein, ça remonte. Donc, effectivement, qui a sauvé des petits enfants qui étaient découpés dans des barils.
Il était voilà. Évêque, si je dis pas de bêtises.
Exactement. C'est pour ça qu'il est toujours représenté avec sa mitre d'évêque et sa crosse.
Et c'est pour ça qu'il a pu les ressusciter. Et que c'est pour ça que le boucher l'a laissé entrer, parce qu'il s'est dit, je vais pas laisser un évêque dehors.
Bah non, c'est pas cool. On est d'accord. Même moi, je laisserai pas un évêque dehors.
Oui, c'est un évêque qui sonne là. Bon.
Et donc, c'est vrai que c'est très 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 célébré en Lorraine et en Alsace. Les gens qui ne sont jamais vraiment allés par là-bas ne peuvent pas se rendre compte, mais c'est excessivement célébré. On mange beaucoup de pain d'épices, on en est malade toute la nuit. Il y a également en Savoie l'équivalent du Père Noël. Est-ce que vous le connaissez ?
En Savoie ?
Ouais, en Savoie.
L'équivalent du Père Noël en Savoie.
Le Père Chaland.
Le Père Chaland. Sérieux ?
Donc le Père Chaland, c'est...
Il est tout de reblochon vêtu.
Non, c'est un vieux monsieur avec une grosse barbe, un chapeau pointu, qui file des cadeaux aux enfants et qui date du 19e siècle.
Ah, ils ont juste mis un autre nom pour faire les
intéressants. Non, c'est avant le Père Noël, c'est antérieur. Voilà.
D'accord.
Oui.
Je me permets un petit un retour sur le sultan de Brunei.
Oui, en fait, c'est pas du tout.
C'est juste à côté de la Malaisie.
Ouais.
Voilà. Ah bon?
C'est, oui.
Non.
C'est pas du tout.
C'est au-dessus de l'Indonésie. Donc,
c'est vrai. Ah,
oui.
C'est ouf.
Non.
Bah, mais même vous êtes étonné.
Oui.
Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà. Non mais non.
Bah non. Désolé.
Lol. Ok. Très bien. Pardon.
Passons.
Voilà. Je ne pouvais pas non plus.
Ne pas parler de Franche-Comté, oui, voilà. Allez, vas-y.
Allez.
Il y a l'équivalent.
La Tantarie.
La Tantarie.
Ouais, ça voilà. m'est venu.
Bon, on laisse les deux Franc-Comtois et on va se prendre un petit vin chaud en bas, là.
La Tantarie, qui est...
Ne dis pas, parce qu'après les gens vont savoir qu'on traîne avec des Franc-Comtoises, on va se taper la honte.
Qui est la mère Noël franc-comtoise du pays de Montbéliard. Donc, elle se promène avec son âne qui s'appelle Marion. Je trouve ça assez fabuleux.
C'est pour ça Marguerite de...
Bisous à tout le Marion.
Hey, Marion.
Dans les rues des villes. Et elle donne des petits cadeaux aux enfants sages, enfin voilà, même délire. Et ce serait la réincarnation ou le fantôme d'Henriette de Montbéliard, qui était une comtesse du 15e siècle. Voilà, et qui était très sympathique.
Logique, cohérent.
Et enfin, en Italie, vous avez le petit bonus, la fée Befana.
Befana.
Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle est absolument ignoble, on dirait un personnage d'Halloween, étant donné que c'est une sorcière hideuse avec des verrues sur un balai. Mais elle est super souriante et pareil, elle donne du bif et des bonbons aux enfants. Et pareil, ça date du 19e siècle, je crois, la fée Befana.
Bon, elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle est gentille.
Ah,
elle voilà. Plaise.
Eh ben cool, vous allez pouvoir, grâce à tout ça, vous allez pouvoir briller en société pendant vos dîners familiaux à venir. Et bah tiens, d'ailleurs, le 24 au soir, ce soir d'ailleurs, quand vous entendrez cet épisode, très certainement. Mm-hmm. Eh ben tiens, il y a aussi Hicham qui va pouvoir vous permettre de briller en société.
Oui! Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement! C'est quoi? Regardez! L'arbre a été chié!
Ah non!
Le jingle le plus random de la vie.
Du coup, allez, on attaque avec le petit sapin de Noël. Donc, juste pour avoir des petites statistiques, tous les ans, il y a à peu près un peu plus de 6 millions de sapins qui sont vendus en France. T'en as 5 millions, c'est des sapins naturels. Les autres, c'est en plastoc. Et ce qui représente un peu un foyer sur 5. Voilà. J'ai mis les chiffres.
Vous en faites ce que vous voulez maintenant.
Ouais.
Allez, salut.
Un autre chiffre, ça représente 140 millions de chiffres. Enfin, c'est un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros.
Et un terrain de foot, tu as?
Non.
Wink, wink.
Donc, on en parlait tout à l'heure, Elodie, en bas, vous les auditeurs, vous le savez pas, mais il existe plein de variétés de sapins différents. Donc, il y a l'épicéa.
Mm-hmm.
Et en fait, du coup, l'épicéa, c'est une sorte de sapin.
Alors attention,
je suis pas sûr.
Elodie, vous avez déjà entendu, qui est un peu spécialiste en biologie. Donc,
il y a les sapins et les épicéas. Ah,
mais c'est des conifères.
Oui, voilà, ouais. C'est tous des conifères.
Bah, pour moi, l'épicéa, c'est ce qui est le plus traditionnel. Il est caractérisé par sa bonne odeur de résine. Il y a aussi le normand qui tient bien à l'intérieur.
Ok.
Voilà.
Isolé, cette phrase, elle est ignoble. Le normand tient bien à l'intérieur. Spéciale dédicace à la Normandie.
Nos auditeurs, vous nous direz si vous connaissez des normands qui tiennent bien à l'intérieur.
Il y a le nobilis qui a une odeur un peu boisée et qui a des épines bleuâtres.
Un arbre avec une odeur boisée.
C'est étonnant.
Ouais.
Ça change de l'épicéa qui a une odeur de résine. Enfin bref. Puis après, t'en as plein d'autres. T'as l'Homorica, le Pugens, le Granis, la Pectine, le Douglas, etc.
Tu peux nous dire que t'as inventé des noms.
Non, tu casses les micros tellement tu dis des conneries. Du coup, pendant que Camille répare sa connerie, je vous parlais un peu de la vie du sapin. Donc, pour un épicéa, pour atteindre les 2 mètres, ça lui prend à peu près 8 ans. Le normand, c'est entre 10 et 12 ans, et une fois que tu peux le couper quand tu veux, quoi. Parce que le sapin que t'as dans le studio, il fait quoi, un mètre.
Ouais, on a un magnifique sapin bien décoré qui clignote.
Bisson.
Du coup, une fois qu'on le coupe, juste avant de le couper, il taille les extrémités pour faire une bonne forme conique.
Mm-hmm.
Dis-moi si je te fais chier, Camille, en train de bailler.
Camille baille.
Donc vous ne pouvez rien faire, c'est pas possible.
Donc du coup, ils taillent les extrémités pour faire beau, ils coupent l'arbre et après ils le font passer dans une petite machine. C'est une sorte de trampoline en fait, où t'as le sapin qui avance, qui saute. Mais je te jure, j'ai regardé une vidéo, j'étais. Enfin, c'était
ouf. T'as regardé un dessin animé, je...
Non, non, je te jure, tu regarderas quand même.
T'as encore passé des heures sur YouTube.
Et en fait, ils font sauter le sapin pour enlever l'excès d'épines. Voilà. Juste après ça, ils roulent dans un câble de bas en haut, et ils le mettent dans un camion réfrigéré pour que ça tienne bien jusqu'à ce que ça arrive chez nous, quoi. Et bon, bref, ça c'était la petite histoire. Juan a l'air dégueu.
Voilà, c'est toujours l'idée.
À dépité.
Je pense que c'est l'idée d'un sapin qui est du trampoline qui a fait craquer notre cher Juan.
Du coup, bah, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on met un sapin en fait à la maison ? Est-ce que. En quoi ça célèbre la.
Parce qu'il faut bien avoir quelque chose. En dessous de quoi on va mettre les cadeaux ?
Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pour prolonger la saison fertile, entre guillemets, pour prendre un petit peu de... Parce que dehors, c'est gelé par l'hiver, et donc on prenait de la verdure, entre guillemets, qu'on laissait à la maison pour...
Peut-être.
Je sais donc pas, t'as pas du tout préparé.
Si, mais...
C'est juste poser la question.
Ta version, elle est pas... Enfin, je suis pas tombé sur ta version, tout simplement.
Ok, très bien.
C'est pas tout simplement un porte-guirlande, parce qu'il paraît que dans l'histoire, on portait les guirlandes autour du cou, donc à un moment donné, il fallait les poser quelque part.
On en reparlera des guirlandes tout à l'heure.
On s'est dit qu'on avait l'air con avec ça autour du cou, faut bien les mettre ailleurs.
Voilà.
Non, bah du coup, je me suis posé cette question-là et puis je me suis dit, est-ce qu'on en parle dans la Bible, tout simplement ? Et j'ai regardé, voilà, ça commence, pour le Jérémie, enfin, je sais pas comment ça se lit, 10.2-5.
La Bible par un musulman, quoi.
On dirait un code barre.
10.2-5.
Je vais vous le lire. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont pas vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le traîne avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Je crains tellement. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les...
T'as fait 7 titres depuis le début de ta phrase.
On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauront faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Tu peux arrêter la réverb. Merci.
Regarde, arrêtez la réverb.
Ah bah c'est super. Tout est calculé. Et en fait, ça c'est de.
T'as une table vin chaud là.
Donc c'est un extrait de l'Ancien Testament. Si je dis pas de bêtises, ça a été écrit bien avant Jésus-Christ, ça.
Ah bah oui. Ouais. Bah oui.
Je sais pas, je m'y connais pas.
C'est le principe de l'ancien.
Un petit peu avant Harry Potter aussi, okay. Il me semble. Mais
Et bah en fait, en lisant ça, je sais pas si avec toutes mes conneries et les rires à côté, vous avez pu entendre un peu, mais on.
Oui, donc ça branlait des sapins. Ouais.
On peut croire justement qu'il parle des sapins de Noël et qu'il condamne la décoration du sapin.
Non, c'était avant Noël qu'il a écrit ça.
Non mais justement, putain. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que c'est haram quoi, tout simplement. Enfin bref, on verra ça un peu plus tard. Donc les premières documentations d'un véritable sapin de Noël, c'était en Europe de l'Est, entre le 15e et le début du 16e siècle.
Tu en es sûr ?
Certain, en 1441.
Sûr.
Certain, à Tallinn, c'est en Estonie. Et là, je remarque que j'étais un peu trop optimiste, j'ai créé un nom horrible en allemand.
Allez.
Bruderschaft der Schwarzaupter.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un genre de scarabée, ouais.
Non, en fait, c'est la confrérie des têtes noires. Et en fait, les têtes noires, c'était des marchands étrangers en Allemagne.
Ouais, des morts, sûrement.
Des morts ? Maintenant, ils étaient vivants.
Mais non, mais des morts.
Mais non.
Oh la vache!
Putain, il chame!
Et on rame!
Bref, du coup.
Donc le vin chaud, oui.
Ouais, la confrérie des têtes noires, en fait, ils ont installé un épicéa dans le centre-ville. Et en fait, c'est là où on se retrouvait pour danser, pour chanter, tout ça. Et puis à la fin, on brûle le sapin. J'ai écrit des blagues pourries, hein, je suis désolé.
Oh mon dieu!
Et en fait, je suis pas inspiré, mais j'ai juste écrit blague Jeanne d'Arc.
Faire ici une blague sur la crémation. C'est Allez, pas comme ça qu'on écrit des blagues.
Il voulait faire comme Marie, il voulait la réchauffer, c'est ça ?
C'est ça, exactement, merci, il a dit.
Putain, rattrapé, mais on sait pas comment, quoi.
Explication de blague. Yeah.
Il y avait aussi du coup en 1510 à Riga en Lettonie. On peut toujours la voir. Ce que je vais vous dire, c'est une plaque qui est au sol en plein ville. Il y a écrit en 8 langues différentes le premier arbre de la nouvelle année en 1510.
Ok.
Donc on peut se douter qu'il y a, enfin voilà,
c'était il y avait un arbre, voilà, c'était le premier,
un arbre de Noël là-bas. Non. Sinon en 1520 aussi, quoi, quoi non, pourquoi non ?
Non, c'était en France, je suis sûr. Ouais.
On y viendra.
Franchement.
En 1520, en 1520, il y avait en Allemagne, en Allemagne, une gravure qui montre un gars sur un cheval qui était habillé en évêque. Et on peut imaginer que c'est peut-être une représentation de Saint-Nicolas. Mmh. Et ce gars-là, bah, en fait, il tirait un sapin.
Ok.
Tout simplement.
Ou un épicéa.
C'est la même chose, il le dit.
Ouais.
Non, mais ça, oui, moi, je suis très suggestible.
J'essaierai pas de donner des leçons à une doctorante en biologie, mais bon. Et toi qui vas.
Bon, et du coup, je me suis posé une autre question. Quelle est l'origine?
Oh
bah oui, oui, mais attends, je pose plein de questions. Quelle est l'origine de tout ça? Et en fait, de quoi?
Dans le monde et tout?
Non.
Ah. Tout ça, les sapins?
Oui, les sapins. C'est mon sujet, les gars. Allô?
N'inquiète pas, on suit.
Donc ouais, en Allemagne du Nord, il y a plein de choses qui se passent en Allemagne. Hein. En Allemagne du Nord, donc bien avant Jésus-Christ, il y a eu il y a plein de tribus de païennes qui décoraient en fait leur maison avec des branches d'arbres. Et ils faisaient ça pendant le solstice d'hiver. Du coup, bah, le solstice d'hiver, en fait, vu que c'était la journée plus courte, bah, ils fêtaient le renouveau du soleil, parce qu'à partir de là, le jour, enfin,
c'est plus exactement long. Le même concept que les Saturnales, en fait.
Peut-être.
Yeah.
C'est exactement ça, oui. Oui. et un jour, il y avait un gars qui se promenait, et c'était ce monsieur-là s'appelait Boniface.
Mm-hmm, le préfet Boniface.
Boniface, c'était un anglais.
Boniface.
C'est un anglais chrétien qui allait en Allemagne pour essayer de convertir. Oui, Camille.
Je suis vraiment désolée, on est en quelle époque là? Je suis complètement perdue.
On est. Très, très, très bonne question. On est avant Jésus-Christ.
Il y a des mecs qui s'appellent Boniface avant Jésus-Christ.
Non, Boniface, je sais pas, mais je sais pas, j'ai pas noté. J'ai pas noté.
Boniface, dans l'histoire de l'humanité, s'est promené en Angleterre. Très bien, ok.
Et non, il s'est promené en Allemagne.
C'était un anglais.
Ouais.
En Allemagne.
Disons que c'était jadis.
Arrête le vin chaud.
Alors, on reprend, on va laisser Hicham. Donc, c'était jadis, un mec qui s'appelle Boniface qui se baladait en Allemagne pour évangéliser. Ou...
Exactement, okay. Les Allemands. Et il est en train de marcher, du coup, et puis il a vu une tribu en train de faire un rituel autour d'un arbre. Mm-hmm. Cet arbre, c'était un énorme chêne, c'était un chêne géant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils allaient égorger un enfant.
Ah, oh, shit. Ouais.
Et ça, c'est pour le dieu Thor.
Mm-hmm. Ok.
Le gars était Kécho.
Oui, il a déjà changé de chaîne.
du coup, bah, il essaie de les retenir, leur dire, mais les gars, pourquoi est-ce que vous faites ça, quoi? Et ils lui ont répondu, bah, écoutez, ce jeune géant nous l'a dit. C'est Dieu qui nous l'a dit, quoi. Boniface, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Pour les convaincre que Thor n'existe pas, bah, il coupe l'arbre.
Ok.
Voilà.
Et en quoi c'est une preuve?
Bah, parce qu'il pensait, en fait, que si tu coupais l'arbre, bah, Thor allait venir et il allait te défoncer, quoi. Et du coup, il coupe l'arbre, et puis là, on a plein de versions différentes, et puis vous verrez laquelle vous arrange. La première, c'est que une fois qu'il a coupé l'arbre, un sapin a commencé à pousser directement au-dessus de l'arbre.
Par-dessus le chêne.
Ouais. Je suis
pas convaincu.
Et du coup, bah, c'est un miracle, c'est un signe de Jésus, et c'est une conversion. Deuxième version, Boniface pointe à un autre arbre au hasard, et il y a eu un sapin. Et il dit, ceci sera votre nouveau symbole. Utilisez-le pour construire vos maisons. Jésus-Christ veillera sur vous. Voilà, ça, c'était une version un peu chiante aussi.
Non, mais il y avait le sens de la formule.
Mais quand même mieux que la première. Et puis la troisième, ma préférée. Donc le chêne géant, il tombe, il écrase tout sur son passage, sauf...
Un sapin,
bien joué. Mmh. Et du coup, bah, Boniface, il a utilisé ce pur hasard hein, en tant que miracle. Alléluia. Et il a dit, désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus.
Ok, donc il a tenté un truc, ça a marché, il s'est dit, bah...
C'est ça.
Allez, on va tirer parti.
Et dans toutes les histoires, ils disent toujours la même chose. Le sapin pointe vers le haut, c'est le paradis.
Où est Jésus ?
Mais t'as déjà vu un arbre qui pointait vers le bas ?
Non. Et il peut pointer
pleureur,
ouais. À gauche. Bon, enfin bref, allez, on revient du coup au petit Jérémy 10.2.1-5.
La Bible paraît jamais.
En fait, avant, t'avais quelqu'un. Enfin, avant, non. Encore aujourd'hui, t'as quelques chrétiens qui pensent qui parlaient vraiment du sapin. Mm-hmm. Mais moi, je suis plus partant sur l'autre version. C'est. En gros, il parlait des païens qui décoraient leur maison et qui idolâtraient Thor avec le chêne. Mmh. Voilà, tout simplement.
Ok.
Donc, si je dis pas de bêtises, les chrétiens, Camille, tu peux me dire m'arrêter si je dis une connerie. Les chrétiens, ils utilisaient le sapin comme signe de vie éternelle. Non. Avec Dieu.
Pour ce qu'ils veulent.
Ok, très bien. Et il y avait une époque aussi où les gens pendaient le sapin à l'envers chez eux.
Oh, le bordel, pour ouais. l'installation.
Ça dit quelque chose, hein.
Déjà,
mettre des guirlandes, ça me fait chier, alors retourne un sapin.
Par contre, c'était vachement plus pratique pour mettre les cadeaux en dessous. Il y avait vachement plus de
place. Il y avait plus de place, ouais, il fallait être riche. Et sinon, tu as aussi au nord de l'Europe, en fait, ils n'utilisent pas du tout de sapin. Même aujourd'hui. Ils utilisent un cerisier ou l'aubépine. Et okay, c'est surtout s'ils sont pauvres, en fait.
Ok.
Voilà. Coûte
moins cher, le cerisier, au-delà du cercle polaire, faut le trouver quand même.
C'est vrai.
c'est un cerisier arctique.
C'est vrai. Mais si t'es vraiment pauvre et tu prends juste des branches de cerisier. Non, tu prends juste des branches et puis. Et puis ça suffit. Allez, on enchaîne. Donc, en fait, ces arbres-là, ils sont censés représenter. Enfin, sont censés représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça vous dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose, effectivement, mais je ne saurais pas de situer...
Adam et Ève.
Ah oui, putain.
Voilà. En fait, le fruit rouge...
C'était le fruit de la connaissance.
Pomme. C'est ça, la pomme. Allez, je me suis aussi posé d'autres questions, figurez-vous. Je me suis posé la question, depuis quand l'arbre de Noël est à l'intérieur de notre maison ? Là, il y a plein d'autres hypothèses, encore une fois. Donc, je vais vous les citer. Au XVIe siècle, en Allemagne, il y a un certain monsieur qui s'appelle Martin Luther... Il se promenait un soir tranquille, pépouze, dans la forêt en rentrant chez lui. Et il regarde, il lève la tête et puis il voit les étoiles à travers les sapins. Et il dit, putain, mais c'est trop beau, quoi. Et c'est tellement beau qu'en rentrant, il a dit à ses gosses...
C'est
les protestants.
J'ai vu les étoiles à travers le sapin et tout. Ça me rappelle Jésus qui a quitté le ciel pour revenir sur la terre le jour de Noël.
Oh là là. Martin Luther a dit ça ?
Oui, Martin Luther lui-même, en personne.
Et là, son fils lui a dit pose ton pétard, papa. On en reparle demain.
Non, en fait,
pour ce qui est de Martin Luther, on vous renvoie vers Culture 2000. Dans le dernier épisode, parle de ça.
Oui, c'est vrai, la forme protestante, c'est ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, en Allemagne, un soir de Noël, il y a un sylviculteur. Je l'ai fait la blague ou pas ?
Je suis pas sûr, mais vas-y, hein, t'as l'air motivé.
Non, je suis pas motivé.
Allez.
Bon, c'est. Non.
Non, mais si,
pas un mec qui cultive les Sylvie Vartan. Allez. Et ça, c'est.
Tu pouvais ne pas la faire.
Vous savez, c'est quoi un sylviculteur ou pas ?
Les arbres. Les arbres sylvestres.
Ouais, allez, c'est. Les... Voilà. Et du coup, un sylviculteur et sa famille, ils étaient tranquillement posés chez eux dans la cheminée pour se réchauffer, comme faisait Marie. Et ils entendent quelqu'un taper à la porte. Ça fait pas du tout ce bruit-là. Et il ouvre la porte et il voit un gosse tout seul. Il était perdu. Et du coup, Michel, c'est le sylviculteur, il l'accueille et tout, et puis il le nourrit, il le lave, il le fait dormir dans le lit de son benjamin et tout. Et le lendemain matin, la famille se réveille par une chorale d'anges.
Genre, oh, le bordel.
Ouais.
Le squat, quoi.
C'est ça. Et en fait,
le ange dans ton salon, tu sais.
Le petit bout de chou, là, il s'est transformé en Jésus.
Ah oui. Non, mais
et du coup, Jésus, il se lève, il va dans le jardin, il casse une branche de sapin, il l'a donné en cadeau pour les remercier de l'avoir pris en charge. Et il leur a dit, ah non, c'était une autre blague. Et puis,
Tony, ceci est ma thune.
Non, mais j'avais plus te dire, donner.
Oh là. Je propose que vu les deux dernières, la prochaine, on la saute.
Ok, très bien.
C'est un marché.
Il faut que j'apprenne de mes erreurs.
Oui.
Et du coup, depuis, les gens prennent des sapins chez eux pour se souvenir de ce moment qui n'a jamais existé, probablement.
Ah oui, je pense.
Du coup, bah, Camille t'en a parlé vite fait tout à l'heure, mais je vais parler aussi de la décoration et de son origine. Encore une fois en Allemagne, c'était au début du XVIe siècle, on décorait les sapins avec des trucs comestibles, genre du pain d'épices, des pommes qu'on mettait de l'or par-dessus pour faire beau et tout. Et au début du XIXe siècle, les verrières allemands ont créé des sphères soufflées qui s'appellent des Kugel.
Oui.
Et
Non, pardon.
C'est de la bouffe, ça, non ?
Oui. Ouais.
Et j'ai une culture française, vous pouvez pas me détrôner. En fait, à la base, c'était utilisé pour repérer les mauvais esprits, mais du coup, ils l'ont allégé. Enfin, c'était juste une sphère. Ils l'ont recouvert de nitrate d'argent à l'intérieur pour que ça brille, ou aussi de mercure, mais c'était leur problème. Et puis voilà. Il y a aussi les guirlandes qui ont été aussi inventées en Allemagne. Ils ont tout fait. Mais après, il faut l'Allemagne à l'époque, c'est flou parce que il y a
la époque.
Ouais, il y a plein d'époques. Non, mais sérieux, 15e. Mais je vous ai parlé
voilà,
du 19e,
piéger,
du 16e.
Faut lui poser ce genre de questions.
Non, non, mais je suis sérieux, il y en a plein. Mais parce qu'il y a des moments où l'Alsace-Lorraine, en fait, c'était allemand.
Oui.
Donc du coup, c'était en Allemagne. Mais quelques siècles plus tard. C'était à France.
Quelques années plus tard.
Oui, même quelques jours plus tard. Hein. Il a suffi d'une minute. Hein,
c'est assez variable, en fait. Hein.
Bon.
Ah, vas-y.
Ok. Du coup, les guirlandes aussi, ils ont été inventées en Allemagne. C'est beaucoup moins lourd que les pommes dorées. Mm-hmm. Et c'est beaucoup moins cher aussi.
D'accord.
Puisque c'est rien. C'est...
On n'a pas besoin de dorure, ouais.
Voilà. Et puis, est-ce que vous savez les guirlandes lumineuses ? Qui les a inventées ? T'en as parlé, toi, tout à l'heure, non ?
J'ai dit que ça datait de la fin du 19e.
Ouais.
Qui non ?
C'est des
Joseph Guirlande. Oui, c'est, bah ça je l'ai dit que ça a été inventé aux États-Unis, mais alors je te dis, Joseph Guirlande.
Non, Thomas Edison et son collègue.
Non.
Ah, il a mis plein d'ampoules en série et puis elle est roule.
Voilà. Et c'était son pote aussi, Edward Johnson. Et en fait, juste avant ça, il décorait les sapins avec des bougies.
Oh la merde.
Et c'était c'est con, très très dangereux. Quoi.
Ouais, bah oui.
Mais une petite anecdote, c'était quand ? En 1830, il y a tout un hôpital. Non, c'est pas la bonne note. Je sais plus quand exactement, mais il y a plein de dates dans mon truc, c'est pas mon point fort.
La précision historique d'Hicham, quoi. Un
mais,
jour
1885, il y a un hôpital à Chicago qui a complètement cramé à cause de ça.
D'accord, bonne ambiance. Donc à cause des bougies qu'il y avait dans les sapins.
C'est ça. En fait, ils mettaient des noix. Enfin, des noix un peu grosses, avec de l'huile à l'intérieur et puis des bougies. Et puis,
Ah, donc t'es méga dangereux.
Ouais. Et bon, on va bouger rapidement au Royaume-Uni. Le premier sapin dans la trace, c'était en 1830. Ça a été devenu populaire en 1840-41, quand le prince Albert, donc le mari de la reine Victoria, il a mis un sapin au château de Windsor. Et en France, c'était en 1738.
Sous le règne de Louis XV.
Exactement, sa femme qui s'appelle
Marie Lédenska.
Elle aurait installé un sapin dans le château de Versailles.
Les gens trouvaient ça cool.
Ils ont trouvé ça cool. Et puis un peu plus tard, en 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenburg, d'origine
allemande,
encore une fois, a décoré un sapin aux Tuileries. Et c'est devenu une tradition après la guerre de 1870 qui a opposé Napoléon III et l'Empire germanique. Qui dit guerre, dit migrants.
Ah.
Et les migrants en fait, d'Alsace-Lorraine, ils ont pris
les sapins sur leur dos.
La tradition du sapin et ça s'est répandu dans toute la France.
Ok. Ah oui, donc c'est grâce à ces mouvements de population qu'on a une nouvelle... Bonne nouvelle tradition, quoi.
C'est ça. Enfin, ça a été importé en France grâce à eux.
Cool. Et ben, c'était chouette. On va pouvoir savoir d'où viennent nos super sapins.
Voilà.
De l'Est, quoi.
À la
c'est ça.
Ben ouais. Bah en tout cas, oui, c'est vrai. Bah, je fais plein de traditions de là-bas. Donc ben, c'était cool. Et là, ouais, on dira qu'est-ce qu'on va faire pour cette fin d'épisode. Ah, que
toi, Elias, de quoi tu vas nous parler ?
Parce que c'était encore un épisode très court, je pense.
Non, ça va. C'est très honnête. Mais on va finir avec un petit truc un petit peu sympa, dynamique, avec des puntos pour faire plaisir à tout le monde. Je vous ai préparé un tout petit quiz avec une petite poignée de questions sur Pardon Maman.
Parce que est-ce que les auditeurs peuvent jouer ?
Vous pouvez jouer à la maison. Vous pouvez, en écoutant l'épisode...
Prenez votre grille.
En écoutant l'épisode, vous pouvez tweeter directement vos réponses et on comptera sur votre honnêteté pour voir si vous avez bon ou pas.
Ça marche pas du tout, ça.
Allez, ça va le faire, moi j'y crois. Non, mais bah, du coup, on va donner les réponses là maintenant. Mais, donc, bah, bon, on va dire pas d'équipe, globalement.
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Oui.
Pour ceux qui croient en Dieu.
Et puis, bah, allons-y.
Eh bien,
qui croit.
Allons-y.
Sinon, est-ce que vous avez des questions?
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160.
Allez, c'est parti. Donc, comme je disais, bah, pas d'équipe, chacun pour sa peau. Donc, il y a donc 4 participants, une petite quinzaine de questions. Et donc, bah, comme on vous a dit, vu qu'on va faire une petite fin de saison, j'ai pris quelques questions rapport au sujet que nous on a présenté, que nos invités ont présenté, et sur le podcast en général pour voir si
on n'est pas dans
si
la merde.
Vous avez bien suivi. Voilà.
C'est parti.
On va tester ça. Voilà, parfait. Une petite ambiance. Je propose que ça réponde, on va dire, on va y aller à la vitesse pour les puntos.
Allez.
En évitant de gueuler, de renverser à la table, si possible.
Ok.
Alors, première question, au cours de quel épisode
Franche-Comté.
Non. Camille a-t-elle mentionné la Franche-Comté pour la première fois?
Au troisième.
Trois. Ouais.
Trois.
Premier.
Un point.
Ah oui,
un
pilote.
Camille.
Putain, direct.
Non, pas pilote, mais premier épisode. Et c'était genre au bout de 3 minutes de son sujet, quoi. Donc, ça faisait 10 minutes qu'on avait commencé.
D'ailleurs, elle a promis qu'elle arrêterait pour la saison 2 et qu'elle n'en parlerait plus jamais. N'est-ce pas, Camille?
Je sais pas si elle s'y tenir, mais en tout cas, il y a de l'idée. Alors, donc, allez, un punto pour Camille. Il y a quelques définitions aussi à demander. Oui. Qu'est-ce qu'une pupe?
Ah, un papillon, enfin non, c'est le stade.
C'est une étape. Une étape de transformation du papillon, c'est quand il est dans sa coquille.
C'est une chrysalide.
Quand c'est une larve dans sa coque.
Non, là. Tu mélanges plusieurs termes.
Il a pas tort, Juan, c'est une chrysalide.
Non, c'est entre la larve et la chrysalide.
Ah.
Je vais mettre.
J'ai un demi-point alors.
Ouais, allez. Un demi et un demi pour Camille également.
Et puis moi alors.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Camille?
Toi, je t'ai mis un point, ça va?
Ah, bah cool.
Elle a rien dit du tout, regarde là, elle fait genre.
Bah, si elle est avancée. Elodie, n'hésite pas. Hein, tu vois. Que veut dire vodka?
Oh,
l'eau du peuple. Ah, putain, vas-y, défonce le micro.
C'est ça, c'était de l'eau. Et nous avons Camille en tête avec 2,5 points. Allez, on va passer à la question 4. Quel est le nom du dieu vaudou suprême?
Mocha.
Mao.
Mao.
Ah merde.
Mao, M-A-W-U.
C'était pas loin, Elodie. Et ça fait un point pour Hicham, ce qui était avant. Question 5. Quelle personnalité a été dépucelée le jour de l'anniversaire de Camille?
Louis Napoléon.
Napoléon, effectivement.
Mais oui, merde, j'aurais pas dû répondre.
On avait déjà parlé de
Kennedy,
ça.
Mais non.
Ouais, dans son épisode sur Napoléon.
Ah, j'écoutais pas.
quelle est la différence entre le cannibalisme et l'empereur? Anthropophagisme.
Y en a un, c'est manger son espèce, et il y en a un, c'est uniquement applicable aux hommes. Le cannibalisme est uniquement applicable aux êtres humains.
Oui.
Non, c'est l'anthropomorphisme qui est uniquement applicable aux êtres humains.
Anthropophagie.
Anthropophagie
c'est ça, c'est qui fait.
Oui, putain, oui, anthropomorphisme.
Punto pour Juan.
Un punto et demi pour moi.
Ouais. Donc on a là dans l'ordre 3,5. Pour... Les demi, ça ne va rien en fait. Pour Camille, 2 pour Ichouchou. 1,5 pour Juan, et on attend le décollage d'Elodie. Je suis sûr que ça va venir.
Il me faut un buzzer.
Ah, enfin, peut-être qu'on essaie de trouver ça pour la saison 2.
Non.
Ça évitera aux gens de gueuler dans le micro, simplement.
C'est vrai.
Est-ce que vous pouvez m'énoncer la loi de Hofstadter?
Oh putain, c'était laquelle?
C'était quel épisode ça déjà?
Attends.
Allez, hop, on gamberge, on réfléchit.
C'était dans la gestion du temps.
Oui.
Ouais.
Oui.
On avait la loi de Murphy.
Ouais,
c'est pas la question.
Et on avait, eh ben, laisse-moi essayer de réfléchir à vote.
Ah, ça me dit absolument rien.
Écoute, je ne me souviens pas.
Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté.
Ah, bah ça explique tout.
Alors, Elodie qui réfléchit peut-être.
Ouais, non, je sais plus.
Allez, je commence pour un demi punto. Toute tâche prend
fin. Éventuellement.
Forcément plus de temps que ce qu'on a prévu d'y accorder.
Ouais, un petit complément à la loi.
Croissant.
Et égal à MC carré.
Non, toute tâche prend plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Allez, ça va être un demi punto pour Juan.
Je lui donne 0,25. Je dis ça, tu vois.
Ouais, bah toi t'as eu 0, hein. Et je peux t'en retirer, hein. Semaine démocratie. Quelle est la signification de sitcom?
Je vais pas répondre.
Oh la vache.
Tu peux, hein.
Je sais, j'étais pas là en plus.
Je vous laisse 3 secondes.
Ah, si, c'est les séries de 20 minutes
ouais,
où il y a des
situations comédie.
Ouais,
comédie
où
voilà.
Il y a des rires enregistrés.
Voilà, c'est exact. Comme vient de dire Juan.
La définition, c'est situation comedy.
Comédie situation. Situation. Et ça, effectivement, c'était l'épisode où on avait reçu Mina. Parce que, bah tiens, je voulais un peu parler des épisodes.
On avait parlé de Godmichet.
Exactement. Et Mina nous avait parlé de réchauffement climatique.
J'allais dire, c'était réchauffement climatique et Godmichet en même temps.
C'est ça.
Ah, l'un dans l'autre.
Titre. Oui, et puis la vodka, bah, c'était fait par Pim Pam Poum.
Oui.
Ouais.
Qui était bien chouettos. Bah, en fait, du coup, j'ai dû me refaire tout un gros marathon d'épisodes pour pouvoir choper ces informations. Et donc, je me suis honnêtement bien marré à réécouter nos différents sujets, nos invités et tout. C'était bien, bien sympa. Donc, on vous encourage à refaire un marathon pendant les vacances. J'espère que ça vous fera du bien. Donc, à la question 9, quelle est l'origine du mot arctique ?
C'est l'inverse de...
Antarctique.
Bah si. Non, mais c'est vrai, c'est Fanny qui l'avait dit.
Par définition.
Oui, mais le mot Antarctique...
Mais ça vient du grec.
Il y a dans Ant.
Ouais.
Non, mais il y a un truc avec Antinord.
Mais oui, mais c'est pas l'origine.
Arctique et Antarctique, mais l'origine...
Qui par définition, Antarctique, c'est forcément venu après Arctique, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est vrai. C'est quoi la question, du coup?
Quelle est l'origine du mot arctique?
Ça vient du grec, ça je me rappelle.
Ouais, ça ouais.
Grec en soi. Archéos.
Pas loin. Arctos.
Tikoutos.
Nikos articulus.
Non, c'était donc du grec ancien arctos, qui veut dire ours. En fait, c'est référence à la grande ours
oui,
et la petite
voilà,
ours qui
indiquait ça.
Le nord.
C'est ça.
Et voilà.
Désolé, on avait oublié.
Allez, on va mettre un petit 0,5 à Ichouchou. Ça ne serait pas juste. Et ça, c'était le sujet de Fanny, de Passion Médiéviste.
Désolé, Fanny.
Je crois que c'est pour l'épisode 9, un truc comme ça. 9-10, dans ce niveau-là. Oui, voilà, c'est ça, c'est notre 10e épisode. Et c'était très chouette, et on espère pouvoir la recevoir à nouveau bientôt. On fera ça début 2018 avec grand plaisir.
C'était le premier épisode dans ce nouveau studio, je crois.
Absolument. Mmh, ouais, c'est possible.
Ouais.
Non, c'était avec Mina.
Non.
Ah si.
Ah si.
Ah bon, on a inauguré avec Mina.
Ouais.
Oui, absolument. Okay.
Effectivement, tu as bien joué. Allez. Alors, quand est apparu le minimalisme?
1000. Ah non.
Au XXe siècle.
Plus précisément quand même.
1938.
Non, avant.
Une dizaine.
1928.
Dans les années 10.
Je vois Croix, vraiment très gentil parce qu'il me lance des regards du style, je vais pas.
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960.
Ah non, tu es déjà éliminé.
Oh putain.
Elodie, Camille, une proposition, une dizaine chacune, vous avez 2 secondes.
1950.
26.
C'est pas une dizaine, mais je te remercie d'avoir participé. Ah non, Juan peut-être nous le rappeler.
Honnêtement, j'ai plus la date exacte.
36.
Années 60.
60. Ah,
mais là, je vous retire des points tous, c'est pas possible.
Ça revient.
Moins
0, nul. Question 11. Quel est le premier pays d'origine des Roms? Supposément, parce que c'est assez difficile à prouver.
La Turquie.
Non.
L'Inde.
Ouais.
Un punto pour Camille. Et c'était plus précisément du nord de l'Inde. Et sujet, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être épisode 11 aussi avec Pim Pam Poum. Qui était très réceptif au soir qui était réservé à Rome. C'était très difficile de faire ce sujet, mais c'était un plaisir. Dans quel cadre a-t-on parlé de l'ergot de seigle?
Le LSD.
Ouais.
Oui.
Un punto pour Juan. Effectivement, c'était Johan de Culture 2000 qui nous parlait du LSD. Qu'on vous invite à réécouter l'épisode. Il y a aussi eu des... Il y a aussi eu des dossiers super intéressants de France Inter, France Culture sur l'histoire de LSD, ergot de seigle, tout ça, donc c'est super chouette. Et il y a eu un affaire sensible, si je ne dis pas de bêtises là-dessus,
c'est
aussi
ça.
Donc qui résume assez bien l'affaire et qui la narre avec beaucoup de grâce. Allez, deux petites dernières questions qui me permettent de vous départager, parce que là tout est encore jouable. Je rappelle, Camille est 4,5 points, Juan 4 points, Hicham 2,5 et Elodie qui nous fait la technique Elodie, c'est technique Coubertin.
Elle vaut 5 points cette question.
C'est ça.
On verra pour la dernière. Là, les deux, ça va être des trucs un peu plus techniques, vraiment sur le pas un peu technique, mais sur le podcast en général. Enfin, le podcast le nôtre, mais de manière générale.
Je rappelle que je peux couper vos micros à n'importe quel.
Alors, je vois que la franche camaraderie est de rigueur. Bon allez, à quel épisode a-t-on reçu notre première invitée?
Épisode 10.
Non,
épisode 9.
8.
9.
Ah, on va peut-être laisser les autres
répondre. Ah non, premier invité.
Peut-être laisser les autres répondre.
Bah 7 du coup.
Ah.
C'était Camille.
Ouais.
6, c'était 3. L'épisode 6. Ouais.
Épisode 5, vous avez tous 0 points parce que vous êtes des gros nazes.
Oh non, j'ai trouvé que c'était Camille, merde.
Et j'ai dit à quel épisode ?
Oui, non, mais c'est déjà ça.
Non, mais ça va, arrête de gratter là.
Donc, c'est effectivement Camille pour l'épisode 5 qui nous avait parlé d'une question de chamanisme.
Oui, c'est ça. Mm.
Mais moi, je comptais le tout premier. Je rigole.
Et un dernier truc, est-ce que vous estimez quelle est la durée totale des 17 épisodes de Pardon Maman ?
132 heures.
Alors, je vais vous demander juste les heures, mais j'ai le chiffre précis à seconde près. Vous avez une proposition chacun, comme ça, ça va être le zbeul. Juste les heures.
Et celui qui se rapproche le plus gagne.
30... Non, c'est celui qui est le plus loin.
33.
Pas que j'aime.
33 heures.
Ok.
Ouais, moi, je pense que t'es pas loin. Ouais.
Non, moi, je reviendrai sur ma réponse et je dirai un peu moins. Mais...
Ouais, 29-30.
Moi, je dirais. Attends.
Si j'étais méchant, je dirais que vous êtes très très mauvais en maths, mais.
Oui.
Moi, je dirais 37.
Alors on a, non, moins que ça.
On a on va dire 30, 33, 37, c'est Elodie.
26.
Et c'est Elodie qui gagne.
Ah ouais.
Parce que c'est. En plus, c'était 20.
Parce qu'au début, on faisait des épisodes d'une heure avant de faire n'importe quoi.
Moi, j'ai fait du 2 heures à chaque fois.
Je vous rappelle quoi, le premier épisode fait 51 minutes.
Oui, oh la vache, on était bon.
Ah ouais. Un peu moins qu'une.
T'étais stressé. Alors,
du coup, la réponse, c'est 25 heures. 46 Ouh. Minutes et 40 secondes.
Oh, j'aurais une question juste.
Eh, pas mal.
Et la dernière en plus, la gloire.
Allez, on va mettre 3 puntos. Non, allez, 2 puntos. Pour Elodie, ce qui nous fait
puntos,
Camille en tête avec 4 points et demi. Vous pouvez dire, allez, 5 points. 5 points. Suivi de Juan à 4 points, Hicham à 3 points et Elodie à 2 points.
Je sais ce que je vais faire de mes vacances de Noël. Franchement, pardon maman.
Ah bah parfait, ça sera avec plaisir. Bah du coup, ça va, je pense, signer la fin de cet épisode malheureusement.
Ah bon.
Oui.
On est très triste de vous quitter, mais
de cette saison surtout.
Mais ouais, mais
enfin de cette saison, non, c'était fini avant. Cet épisode était un hors série hein, pour ceux qui n'avaient pas compris.
Ouais, puis on va pouvoir faire un petit point de la saison, mais bah, dans tous les cas, on vous le répète, mais c'est...
On vous retrouve très prochainement. Hein.
Oui, voilà, déjà, et puis c'est sincère à chaque fois, mais c'était un plaisir d'enregistrer des épisodes pour vous,
oui.
Et que vous nous écoutiez. On a encore reçu assez récemment, il y a quelques jours, des messages très très chouettes.
Absolument.
D'auditeurs qui nous proposent, qui me disent des choses très gentilles, souhaitent, mais qui en plus nous proposent des sujets super intéressants, donc début 2018, on devra, enfin saison 2 en tout cas, on devra avoir des sujets vraiment, vraiment, vraiment sympas, vraiment chouettes qui vont poindre le bout de leur nez.
Si vous avez des suggestions d'ailleurs pour l'émission, n'hésitez pas. On les prendra pas forcément en compte. Peut-être ce sera des idées un peu nulles.
On les prendra en compte, on les appliquera pas forcément.
Voilà.
En tout cas, tout est pris en compte. On répond à tout le monde, même si parfois ça prend un peu de temps parce que, chose faisant, on doit gérer d'autres choses. Mais on essaie de répondre à tout le monde et puis c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis d'autant plus quand il y a des propositions de sujets comme ça parce que ça va faire naître plein de trucs.
D'ailleurs, un petit mot lié au podcast. Indépendants, c'est vrai qu'on lit souvent dans les retours, je parle pas que pour Pardon Maman, mais pour beaucoup de podcasts, des auditeurs qui souhaiteraient un cadre un peu plus rigoureux, un peu plus de sérieux. Alors, oui, mais il faut savoir que le principe d'un podcast indépendant, c'est que c'est pas de la radio. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit cadré au millimètre, allez écouter de la radio. Bien qu'on essaie d'être sérieux, il faut quand même qu'on s'amuse, sinon on n'a aucun intérêt à faire un podcast.
Et puis en plus, on est aussi très copains. On n'a aucune animosité envers la radio. Ils font des choses très très bien. On en écoute tous les jours.
Tu as des paillettes sur le visage.
Ah, ça doit être. Ah oui, tiens, on vous enverra aussi des photos.
Tu t'es mis les chaussettes sur
la tête. Voilà, on a des super chaussettes offertes par Camille avec des paillettes dessus. Donc autant dire que mon appartement va ressembler à un grand n'importe quoi. mais voilà.
Il y a 3 paillettes, quoi.
Non, mais voilà, c'était bien, bien, bien cool. Nous, on va revenir dans pas très longtemps, dans tout juste quelques semaines, avec plein de nouvelles choses. On vous prépare aussi des trucs bien bien chouettes pour on va dire le printemps. On vous en dira plus un peu plus tard, mais pour le printemps il devrait y avoir un gros truc bien sympa. Non, avec moins de musique faite à la bouche je pense, mais et puis voilà, vous allez pouvoir revoir d'autres de nos invités, faire plein d'autres choses
bien.
Oui.
Allez, on s'applaudit pour cette fin de saison.
Allez, c'est toujours un plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, filer des étoiles, ça nous fera plaisir. Et portez-vous bien.
Merci à tous.
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
C'est vraiment ridicule cette seule boule qu'on a d'accrocher au plafond.
Moi j'aime bien.
Non mais c'est le Noël du pauvre, la boule.
Il y en a plein de sapins.
Oui, mais il y en a une au plafond. La boule suicidaire. C'est pitoyable quoi, avec le vieux bout de scotch et tout.
C'est ridicule.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.